chèvres sont mortes sur l'aéroport de Katmandou. Pour quelle raison?
Pour du cachemire, évidemment, à Katmandou.
Non.
Ah, ceux-là se sont pris un coup de réacteur.
Non.
Tenté de monter dans la cage d'atterrissage.
Non plus. On a l'info dans Libé, ce matin.
Ils se sont fait une picouse à Katmandou de
machin. Pas du tout.
Non, je ne sais pas, moi.
Deux chèvres sont mortes sur l'aéroport de Katmandou. Il faut savoir pourquoi. Ça s'est passé samedi dernier.
C'est important?
Comment ça
que ce soit samedi?
Oh non, on s'en fout, ça aurait été vendredi. Alors, ça aurait pu être dimanche.
Parce que les chèvres ne vont jamais le samedi à l'aéroport. Sinon, on comprendrait que tout d'un coup...
On dirait ces chansons des années 70, tu sais. Deux chèvres sont mortes à Katmandou, et toi, non, qu'est-ce que tu fous? Deux chèvres sont mortes à Katmandou, et toi, je me demande, qu'est-ce que tu fous? Espèce de chèvre.
C'est l'offering, c'est ça. Ouais.
Deux chèvres sont crevés là-bas.
Alors, dites mes chèvres là. On a retrouvé. Alors, non, écoutez, elles sont mortes. Mais
est-ce qu'elles ont subi des sévices?
Oui, ça oui.
Et pas sexuelles, non.
Non, mais... non, pas sexuelles.
Est-ce qu'elles sont venues là par mégarde ou est-ce que quelqu'un
par
les
gardes,
a
amenées?
Est-ce que quelqu'un les a menées
sur les gardes?
Ou est-ce qu'elles se sont échappées?
Non, elles se sont pas échappées. On les a amenées ces chèvres.
Voilà. Est-ce qu'elles avaient leur billet d'avion?
Non.
C'était une manifestation paysanne.
Non, pas du tout. Non, c'était dans un but bien précis qu'on les a amenées vivantes
pour faire peur aux oiseaux.
Non.
C'était pour l'Aïd?
Mais elles sont mortes.
Pour l'odeur?
Non.
C'est ce qu'on appelle des mules. Elles étaient chargées de drogue.
C'est-à-dire?
On leur mettait de la drogue dans le ventre, ce qu'on appelle les mules en Colombie, des gens qui avalent des sacs plastiques avec de la drogue dedans, et après on les récupère.
Pas du tout, non.
Parce qu'à Katmandou, j'ai pensé le...
Ouais, c'est ça, elle prend l'avion, elle s'assied en première classe, comme si rien n'était, et personne ne la repère. Là, il n'y a pas un douanier qui dit non, bah, y a les deux chèvres, mon commandant, non, c'est normal, ça va, elles ont payé leur billet, il n'y a pas de problème.
Non, écoutez, il y a des rites, évidemment, à Katmandou. Il y a des habitudes, des rites, des traditions. Je vous aide.
On les égorge en principe.
Mieux que les
égorger. On les étouffe.
Oui, non, mais d'accord. Mais on les tue.
On les immole.
Oui, on les
sacrifie.
On les
embrasse.
On les sacrifie. Oui. Alors, quel but on les a sacrifiés sur l'aéroport de Katmandou?
Pour bénir un nouvel avion.
Pas pour bénir un nouvel avion, mais quasiment.
Pour bénir le nouveau radar?
Non.
Pour le nouveau pilote?
Non.
La nouvelle hôtesse?
Non.
Le nouveau steward?
Il nous reste les hélicoptères, les ULM.
Mais aidez-moi.
C'est pas pour bénir.
Pour bénir un duty free?
Non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et là, on a décidé évidemment de sacrifier ces deux chèvres.
Et pourquoi deux déjà?
Alors,
c'était
écoutez...
pour assurer le coup. Et on va en prendre deux.
Écoutez, je vais vous expliquer. Parce que là, je sens que vous ne trouverez jamais. Pierre Bénichoux, vous avez abandonné déjà depuis un petit moment mon histoire de chèvre.
Oui, ça ne m'intéresse pas. Je regarde les pronostics pour cet après-midi. Le 7 va bien dans la 6e. Hein.
Dites, mes chèvres, là, on les a sacrifiées parce qu'il y avait des problèmes techniques, des avaries sur les Boeing 757 de la compagnie Nepal Airlines. Les passagers avaient peur de prendre l'avion.
C'était bien.
Et pour les rassurer, on a sacrifié deux chèvres afin d'un seul coup d'attirer évidemment les grâces des dieux sur les futurs voyages. Et effectivement, l'avion a pu partir avec ses 142 passagers en direction de Hong Kong sans aucun problème grâce à l'offrande faite.
Comme quoi ça tient à pas grand chose. Moi, on n'y pense jamais quand on a peur de
prendre l'avion, toujours tu ramènes une chèvre avec toi.
Ça va mieux, chérie? Ah oui, il me sent mieux maintenant.
John Kennedy serait parti avec une chèvre. Aucun souci. Non, franchement, voilà, c'est une offrande qu'on a faite pour que les dieux se réveillent et protègent. Vous n'avez pas en avion, vous?
Non, moi, je trouve que c'est jamais rigolo quand on fait du mal, quand on sacrifie un animal. Parce qu'une chèvre, c'est quand même un humain, faut pas oublier ça.
Non, mais
c'est vrai, c'est honteux.
C'est pour apaiser Akash Bhairab, qui est le dieu hindou du ciel. Vous avez peur en avion, vous?
Moi? Oui. En avion? Oh, oui, non, pas du tout. C'est un des seuls endroits où je n'ai pas peur.
Ah bon?
Pourtant, j'ai peur tout le temps. J'ai peur ici, maintenant. Maintenant, j'ai peur, là.
Vous avez...
En avion, pas du tout.
Vous avez peur, vous, Mustapha?
Oui, ouais. Moi, j'ai pris un avion bizarre pour aller au Maroc une fois. D'habitude, il écrit Air France ou Air Maroc, et sur mon avion, il y avait écrit avion. Et ça m'a foutu les boules, je vous jure que c'est vrai.
C'est un produit Carrefour.
Voilà, c'était la version ED des avions. Donc,
non, non, c'est formidable en général.
Oui.
Avion, c'est une compagnie où on va une compagnie à prix cassé.
Et
on
oui,
va,
maintenant,
on va,
oui.
On va à New York pour près de deux fois moins cher qu'Air France en classe affaires. J'ai appris ça cet été. Non, alors moi, en avion, j'ai jamais peur parce que je me dis que le pilote, il fera jamais ça à sa propre mère.
Donc, comment ça?
Il pense à sa mère, lui.
Oui.
L'avion va pas tomber puisqu'il veut pas faire de la peine à sa mère. Je te jure que je pense ça.
Ah oui.
S'il est orphelin.
Pas ça, non mais. Il a une famille.
Vous confondriez pas le pilote avec le steward.
Tu vas demander au commandant comment elle va votre mère quand tu montes dans l'avion. À propos, votre mère va bien, mon commandant.
Oui. Elle, la compagnie israélienne avait fait une publicité formidable. On voyait une vieille dame juive. Typique, enfin comme ça, mais et avec une photographie dans un cadre d'un garçon avec une casquette de commandant de bord comme ça, et la légende c'était vous pouvez y aller, c'est mon fils qui conduit l'avion.
C'est formidable, c'est joli.
Je pense souvent à ça, je me dis en fait. Ces mecs-là, ils ont une mère, ils veulent pas que ça tombe non plus.
Ouais, mais des fois, ils sont un peu taquins quand même. Moi, j'ai eu explosion d'un moteur sur un voyage à La Réunion, à la botte de l'Italie, fumée dans l'appareil, hein, donc le gros flip pour tout le monde. L'avion, demi-tour, nous, c'est après les attentats du 11 septembre, on dit bon, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas tout à fait cuit, mais ça va pas tarder, on attend. Trois semaines, un mois, que le commandant, qui avait un certain nombre de choses à faire, il nous fasse une déclaration, et il dit, nous retournons à Paris à cause d'un problème technique, il nous relaisse 3 semaines, comme ça, sans nouvelles, tout le monde tétanisé, et il nous prononce cette phrase que j'oublierai jamais de ma vie, il dit, mais rassurez-vous, l'avion techniquement est bien, pour l'instant. Et wow. On a adoré le pour l'instant.
Mais les pires avions que je prends, c'est quand je vais en Afrique noire, au Cameroun. Ouais. Il y a tellement peu d'avions qui arrivent à atterrir là-bas. Quand il arrive en France, normalement, on applaudit le pilote. Sans mentir, au Cameroun, il y a une standing ovation à chaque fois pour le pilote. En Afrique, c'est ça, les compagnies africaines.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui vous intéresse particulièrement, Yvan Le Bolloc, parce que c'est Jones, comme on dit, sont les baskets lancées par Nike. On nous en parle ce matin dans Le Parisien. Il paraît que cette nouvelle basket, la Nike Shox, est déjà vendue, c'est-à-dire épuisée. On la trouvera pas avant même qu'elle soit dans les magasins. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme pour la console, la PlayStation de chez Sony. C'est-à-dire qu'il y a des précommandes pour la Nike Shox. Alors, c'est une basket à rebondir. C'est-à-dire que dans la semelle, qui est évidé, vous avez 4 plots en mousse compacte de polyuréthane coincés entre deux plaques qui assurent l'amorti et qui vous permettent de mieux rebondir. Et il paraît que c'est une vraie basket concurrente par rapport à toutes celles qui existent jusqu'alors.
Je crois que c'est pas évident pour piquer les sacs des vieilles dames, ça va être génial. Oh. Mais c'est eux qui ont fait...
Il faut que les flics en aient aussi, ça va être joli.
Alors, je reviens à Nike. Vous saviez, connaissiez l'arrivée de cette godasse de
Mais c'est une paire sans sac le bout, c'est 1000 balles.
1149 francs la paire de baskets.
Donc, c'est forcément le
175 euros.
Ça vaut le coup, hein.
175
euros. Ils ont arrondi. Il n'y a pas une bavure.
Écoutez, au Citadium, le nouveau complexe du sport à Paris, on nous dit que les 800 paires que les clients pouvaient réserver ont été retenues en 10 jours. Et le second arrivage, qui arrivera mi-février, se limitera seulement à 150 exemplaires et il n'y aura pas toutes les tailles, prévient la direction.
Mais c'est du pipeau.
C'est vrai?
Mais oui, dans 6 mois, elles seront en sol chez Decathlon à 600 francs, à 4 paires de chaussettes. Mais oui.
C'est du marketing.
Donc il y en a beaucoup, mais ils vont en distribuer très peu. Compte tenu du prix qui est quand même exorbitant. Faut quand même pas rigoler, c'est 1200 balles une paire de baskets. T'as deux gosses dans la famille, ils en veulent chacun une paire. Ça fait 2500 balles, mais comment il fait le RMiste pour contenter ses enfants?
Je suis désolé, Yvan, il faut quand même payer les jeunes qui les fabriquent. Hein. C'est quand même des gars qui sont payés dans les 12 ou 13 francs par mois.
Oui, et puis bon, il faut faire cuire le riz pour les nourrir le midi, c'est un merdier terrible.
Quand on ne fait pas cuire le riz, ils en mangent moins.
Alors, je voudrais être le porte-parole de Nike quelques secondes pour répondre à vos basses attaques, le Bollock, parce que la direction de Nike dit c'est pas vrai, c'est pas pour organiser la pénurie qu'on annonce tout ça. Les plots fabriqués en Angleterre et qu'on fout dans la chaussure pour qu'elle rebondisse mieux nécessitent un procédé très complexe et en concevoir plus équivaudrait à ouvrir une usine, donc ils peuvent pas faire plus de chaussures.
Écoutez, je voudrais qu'on plaigne Nike.
Oui, pleurons pour Nike, ça.
Sentir pas.
Avec les frais généraux, c'est pas possible.
À la demande de Jacques Martin, une minute de pleurs pour Nike.
Nike, c'est dur, Nike.
Organisons une grande campagne.
Non, il y a un moyen.
Des pièces blanches pour les enfants de chez Nike.
Oui, non, les pièces blanches.
Claude, vous emportez des Adidas ou des Nike. Il faut des chaussures pour vous, hein, vous savez. Hein.
Oui, les Skol.
Mais justement, je me cramponne à mes talons. À mes chaussures à haut talon, parce qu'il y a bien un jour où je serais obligé de me balader en Charentaise.
Ça s'appelle, hein. Ça s'appelle des Nike, ta grand-mère.
Oh, oui. Laurent, je n'approuve pas. Je ne trouve pas ça drôle.
Mais non.
Alors, juste
à côté, elle est beaucoup mieux. Quand tu es dans la rue et que tu te promènes avec ton petit triangle, oui, hein, elle gêne la circulation.
Oh, écoute, t'as pas de honte à ton âge de te
montrer. Non,
de moi.
Ça, tu parles à un monsieur qui pendant 3 ans a marché avec ce truc-là. C'est le champion de la piste.
Messieurs, vous allez être intéressés à... Le Viagra est dépassé, ça y est.
Non, ça alors, c'est de la blague, hein, le Viagra.
Ah ben, alors justement, il y a mieux que
j'ai
le Viagra.
J'ai sucé la boîte pendant un an, j'avais...
Alors, il y a mieux que le Viagra, c'est le Parisien qui nous l'annonce ce matin, ça s'appelle l'Urpima.
Ah oui.
Oula, oui.
Ça se présente.
Est-ce que tu as essayé le Bandex? Hein?
Non.
L'enculine solubilisée. Moi j'ai des tas de produits.
La quoi?
L'enculine stérilisée.
Non, solubilisé.
Solubilisé.
Ah,
oui.
Ah là là. Alors non, ça c'est vraiment nouveau.
Ah oui.
C'est disponible bientôt en Europe, paraît-il, un nouveau médicament. C'est le Parisien qui nous le dit, qui favoriserait l'érection.
Ah.
L'Urpima.
Tu attends, Georges. Elle est heureuse. Elle remue ses petites mains. Oh, elle trouve qu'Europe, c'est beaucoup plus drôle. Alors.
Europe, la radio qui borde encore.
Quel slogan. On dit, c'est un super slogan.
Ah, ça, ah, oui.
Europe 1, la station qui borde encore.
L'Urpima, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de l'Urpima? L'Urpima se présentera sous forme de comprimé à laisser fondre sous la langue.
Ah, d'accord.
Et serait efficace, et c'est ça le progrès par rapport au Viagra, serait efficace en moins de 20 minutes. Le laboratoire qu'il a mis au point ne précise pas encore s'il sera en vente libre ou comme le Viagra, disponible uniquement sur ordonnance. Derek?
Ah non, déjà, alors tu fonds un truc pendant 20 minutes sous la langue.
Alors, essaye de tenir la conversation.
Je ne peux pas dire un truc sous la langue. Ouais. Là, t'as regardé.
Non, mais 20 minutes.
Ouais, 20 minutes.
Elle attend.
Alors, t'imagines 20 minutes. Bon, tu rencontres une nanette en boîte, ça se passe bien. Bon, elle te dit, tu me raccompagnes, d'accord, dans la bagnole, tu prends ton truc. Puis arrivé en bas, elle dit, oh, bah finalement, je me lève tôt, je rentre. Alors, toi, t'es déguisé en toile de tente, qu'est-ce que tu veux? Ben... Ou l'inverse, aussi.
Ah oui, l'inverse, c'est pas...
Ça se passe bien, par exemple.
Oui.
Bon, tu dis, tiens, je vais prendre mon truc. Et puis, bon, ça se passe plus vite que prévu. Tu dis, ah non, il faut attendre 20 minutes. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pendant 20 minutes? Tu regardes Très Chasse, par exemple.
Mais non, mais vous vous trompez. On ne suce pas la pastille pendant 20 minutes. C'est parce que
tu fais mal l'amour.
Il faut ça, des fois. Hein.
On commence par sucer la pastille 20 minutes. Sinon, le moteur ne part pas.
Qu'est-ce que je peux faire, moi?
Et après...
Qu'est-ce que j'en pense, mémé?
On rigole là, sur ce sujet, mais attention, il y a quand même 2,5 millions d'hommes, jusqu'à même 3 millions d'hommes en France qui seraient victimes de défaillance au moment crucial. Et pour eux, on est en train peut-être de se moquer de ce qui peut être un espoir, l'Urpima, qui va remplacer le Viagra.
L'Urpina. Comme son nom l'a dit.
Ah, l'Urpina, l'Urpima, ma, avec un M.
T'as un bon truc aussi à la place du Viagra, c'est le Prozac.
Ah oui.
Tu bandes pas, mais qu'est-ce que tu rigoles alors?
Écoute, il faut qu'on le teste.
Oui.
Tu es prête?
Ah bah oui, tout à fait. Oui, ah non, ça marche pas pour les femmes.
Un, deux, trois, allez.
On le teste?
Moi, ouais, moi avec les Nike en même temps.
Avec les Nike.
On testera tout en même temps.
L'euro, voilà. Moi, ça m'interdit.
Moi, je fais plus l'amour. Moi.
Ça me rappelle une superbe histoire, ça, alors.
Ok.
Ah bah c'est quelqu'un qui va voir une prostituée pour la première fois et cette femme dit bah c'est 500 francs et le type ben non il est jeune étudiant il dit c'est pas possible j'ai pas 500 balles alors elle lui dit 400 non c'est pas possible j'ai pas 400 balles 300 non j'ai pas et dit bah, mais j'ai mes Nike on fait l'amour je vous donne mes chaussures. La prostituée dit bon, ah, regarde les pompes. Elle dit bah ouais, elles sont belles, c'est les dernières que Nike vient de faire. Et il monte. Et elle dit mais je te préviens pour ça, alors je ne bouge pas, tu fais ce que tu veux, mais je ne bouge pas. Et d'un seul coup, le type fait l'amour avec la fille et il sent que ça bouge. Il dit ça y est, je te fais jouir. Et la fille nous dit non, j'essaye les chaussures.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
Janine était à Écully, voilà, dans le Rhône. Bonjour Janine.
Bonjour Laurent.
Vous êtes écullienne ?
Oui. Vous connaissez... Enfin d'adoption, je suis lyonnaise, mais c'est à
3
pas de Lyon.
Ah ouais, un petit accent lyonnais.
Eh oui.
Qu'est-ce
ah,
que
oui,
vous faites, quoi. Janine, à Écully ?
C'est ce que je fais, rien.
Ah, bah,
ça c'est pas mal.
Je trouve que c'est une bonne occupation.
Content.
Vous êtes à la retraite ?
Voilà.
Ah, très bien. Faisiez quoi avant ? Vous avez élevé vos enfants ? Vous avez travaillé ? Enfin, vous travaillez aussi quand vous éleviez vos enfants.
Je travaillais à l'hôpital.
Vous travaillez à l'hôpital.
J'étais aide-soignante.
Janine, est-ce que vous nous écoutez tous les après-midi?
Tous les après-midi.
C'est la condition essentielle et unique pour participer à notre émission.
Voilà, depuis que je ne travaille plus, je me suis remis sur Europe 1.
Très bien. C'est très bien, Janine.
Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel.
Pourquoi?
C'est mon anniversaire.
Bon anniversaire, Janine. Alors là, alors Eve, il faut recommencer.
Ah, oui. Ah c'est ma bah, anniversaire. Oui.
Mais alors essayez d'être un peu plus original. Faites-nous la version Stevie Wonder ou je sais pas un truc.
Happy birthday, happy birthday to you,
Janine.
Happy birthday, my dear Janine. Oh yeah, happy birthday.
Voilà. Et ben voilà.
Wow. Qu'est-ce qu'elle est forte, Isabelle Motro.
Elle chante bien. Maxime, lui, est parisien. Bonjour, Maxime.
Bonjour, Laurent. Bonjour à tous.
Bonjour, Laurent.
Joyeux anniversaire, Maxime.
Maxime.
Ah, moi, c'est bientôt. C'est dans deux semaines.
Ah, dans deux semaines, vous reviendrez.
Enfin, je reviens.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime?
Je suis homme d'intérieur.
Homme d'intérieur, c'est-à-dire comme Marcus.
Je suis chômeur, mais je m'occupe de mon chez moi.
Vous vous occupez de votre chez vous. Maxime, vous cherchez un emploi ou pas? Profitez-en.
Tout à fait, oui.
Ah, quel genre? Homme d'intérieur.
Non, journaliste sportif.
Journaliste sportif.
Ah, ah ben bah voilà, ça.
Oui, c'est bien, il y a un poste de la direction de la télévision espagnole qui vient de se libérer.
Et vous avez une spécialité dans le sport?
Je suis un peu touche à tout, mais je crois que je préfère le foot quand même.
Préférer le foot quand même. Parfait.
Tout à fait.
Pas de chance, c'est pas une question sur le foot.
Le Havre en particulier.
Le Havre en particulier. Ah bon, c'est vrai, vous êtes.
Non, c'est une blague.
Ah ben oui, ça peut être une blague.
Bon, ça va. Ça va. Janine contre Maxime, à moins que vous ayez un petit message supplémentaire à faire passer, on attaque la question. Un petit message?
Toutes mes amies qui pensent à moi et à mon fils surtout. Je l'embrasse très fort.
Qui s'appelle?
Eric.
Et Eric, on vous salue, toute l'équipe, attention.
C'est pas facile, les Eric.
C'est pas facile, les Eric. Ah, vous pensez à Eric Nolo et Eric Zemmour, peut-être.
Voilà, le mien est un peu pareil.
Waouh, mélange les deux.
Janine contre Maxime, voici la question. Qu'est-ce qui, en 30 ans, a augmenté de 80%?
Les impôts.
Non, pas les impôts, 80% quand même. Qu'est-ce qui, en 30 ans, a augmenté de 80%?
On parle d'argent, là, ou on parle de...
Pas du tout.
De fréquentation.
De mensuration.
Non plus.
Le prix du pain.
Non.
Le nombre de cancers.
Non.
Votre popularité.
Non. Ah oui, bien sûr.
De fréquentation de quelque chose, il y a
30%. On laisse peut-être Janine et Maxime un peu poser des questions, essayer de répondre.
Je réfléchis. C'est dans le sport?
C'est pas dans le sport.
C'est l'économie?
Non plus.
La santé?
Politique?
C'est indirect. C'est pas la santé, mais on se rapproche.
L'alcool?
Non, pas l'alcool.
Le nombre de remboursements à la sécurité sociale?
Non.
De cas de grippe?
Non.
Ouf.
80%.
Plus. En dépression?
Non, non plus.
Il pleut chez nous.
C'est presque x2, ça. 4.
Qu'est-ce qu'elle raconte, Janine?
Il pleut.
Qu'il y en a des grêlons chez nous, ça tombe.
Mais ça, c'est
pom.
C'est pas la réponse à la question, Janine.
Augmentation de grêlons.
Et sinon, à part ça, ça va?
Je peux comprendre que Maxime cherche un job comme journaliste sportif, mais Laurent Cabrol, en revanche, comme Monsieur Météo à Europe 1, tient à garder sa place, Janine.
Ouais, bah là, je sais pas, mais.
Tombe des grelons à écoulis.
C'est les précipitations?
Non, non, ah, aucun oui. rapport.
Ben, c'est quoi, c'est la vie. À la fausse route. Hein.
Le nombre d'assurés sociaux?
Qu'est-ce qui a augmenté en 30 ans de 80% en les France?
Les morts.
Pas les morts, non.
Ben, les
suicides.
Non plus.
Les blessés.
Non.
Les malades.
C'est plutôt l'inverse, je dirais.
Les naissances?
Pas,
les personnes âgées.
Maintenant, faut préciser.
Les résurrections. Les jumeaux.
Les
jumeaux.
Les naissances de jumeaux. Bonne réponse de Philippe Gueluc.
C'est marrant.
J'avais lu.
C'est dû au traitement, souvent, que les gens prennent pour avoir des enfants.
Exactement. Tendance de fond de la natalité.
En plus, je le savais.
Ah, bah, alors, Jeannine.
Bah, ouais.
Eh oui. Parce que
ça
le jeu.
Ça m'est pas revenu, l'émotion.
Ah, ça. Nous sommes une très bonne émotion, il faut dire. Les jumeaux, boum, en 30 ans, les grossesses gemellaires, c'est ainsi qu'on les appelle, ont augmenté de 80%. Les familles de multiples demandent au pouvoir public de mieux prendre en compte le phénomène. Sur quelques 800 000 accouchements annuels en France, 12 à 13 000 concernent des jumeaux. Il y a de plus en plus de jumeaux.
80%, c'est presque x2. Et en fait, c'est peut-être juste la manière de compter qui a changé. Avant, on disait des jumeaux et maintenant, on dit il y a deux naissances de jumeaux. Ça fait x2. Voilà.
Fallait lire le Figaro aujourd'hui, ce matin. Il y avait un papier signé Delphine de Malvoux dans le Figaro. Vous n'avez pas lu, Maxime?
Ah non, pas Figaro, non.
Et vous, et vous, Jeannine, non plus?
Et non plus, bah non, je suis pas sortie, hein, je suis restée, voilà.
Mais oui, Jeannine, bah, bon, c'était des jumeaux, Jeannine, hein.
Alors, ce qui est drôle, c'est que dans l'article, à un moment donné, ils disent, bon, que voilà, c'est un phénomène qui autrefois était réduit à 0,9% des naissances, qui dépasse aujourd'hui 1,6% des accouchements. On nous donne tous ces chiffres, un quasi-doublement en 30 ans, et on nous dit, deux facteurs l'expliquent. Et là, on a l'impression que c'est à cause du mec qui nous apporte le courrier.
Non, voilà. c'est
d'abord.
C'est vrai que les facteurs sont de plus en plus jeunes. Hein.
Eh ben, dis donc, Jeannine.
Le retard des maternités, ça c'est le premier facteur. Physiologiquement, les chances d'une grossesse gemellaire augmentent avec l'âge. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, cher Evangeli, le développement des traitements pour lutter contre la stérilité. Tout ça expliquerait pourquoi on a de plus en plus de jumeaux en France. Bon, bah, c'est raté pour cette fois, Jeannine et Maxime.
Oui, je peux vous demander un petit truc.
Oui, allez-y, Jeannine.
C'est mon anniversaire, j'aimerais bien entendre, vous devez la connaître, une chanson de Dev. La cigarette qui brûle mes doigts. vous la connaissez?
Alors, ils vont être contents à la programmation
bien
de repas.
Sûr. Mais est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous avez le disque?
Oui.
Chez vous.
Ah, bah, ça serait bien.
Ben voilà, ben vous avez qu'à l'écouter. Vous avez qu'à l'écouter tranquille.
Non,
demandez à disque que vous avez, quoi, tu vois.
On va faire.
Vous savez quoi, vous pouvez même vous faire un petit thé.
On va faire mieux. Est-ce que vous avez le disque là, pas loin de vous?
Et non, il est dans ma voiture.
Ah merde, autrement, on aurait fait un truc pour une. Ça aurait été une première. Elle aurait passé le disque chez elle, on aurait mis le téléphone, puis on aurait passé le disque comme ça.
Et ben voilà, ça faisait pas. Et ben là, pas de problème.
Comment vous dites que ça s'appelle?
La cigarette qui brûle mes doigts.
Mais on a fait une autre que Vanina.
Bah oui, ouais. Mon slip qui me sert les couilles.
Alors franchement,
c'est une phase B, ça,
je ne connais pas cette chanson de Dev. Alors.
Oh bah alors ça. Alors
attendez, juste chantez-nous là un peu pour qu'on essaie de la retrouver dans la discothèque d'Europe 1.
Bah je chante très mal d'abord.
Ah, quand même.
Cigarette qui brûle mes doigts.
Juste la cigarette qui brûle mes doigts.
Ça faisait pas. La cigarette qui brûle les doigts.
Non.
Ça faisait pas ça. Ou alors. J'ai la cigarette qui brûle les doigts. Non, ça faisait pas ça.
J'ai
non plus.
La cigarette
par
qui brûle.
Les paroles sont magnifiques, hein.
Pardon?
Les paroles sont magnifiques. Vous me rappelez dans deux minutes.
Ah ben, on va
on le rappelle.
Ah ben, bien sûr. Allez chercher. C'est un CD ou un disque que vous
avez? Oui, c'est un CD.
Allez chercher le CD.
Voilà, voiture, et faites gaffe à la grêle parce qu'il y a des, il paraît qu'il y a des grelons de.
Avec Uli en ce moment.
Qui ne vous faites pas assommer.
Je trouve qu'il y a.
Je descends et vous me rappelez.
Dev a des fans à Écully, moi je
Attends, il y a une fan.
Il y a des grelons, il y a des grelons.
L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime.
Jeannine est de retour. Bonjour, oui. Jeannine, à nouveau.
Oui.
Vous avez trouvé le disque?
Bien sûr.
Ah.
Et au niveau de la grêle, Jeannine, ça va mieux ou pas?
Non, il pleut toujours autant. Hein.
Mais il pleut ou il grêle, Jeannine?
La grêle est arrêtée, mais il pleut. Hein.
Bon anniversaire, Jeannine, puisque vous vouliez cette dédicace, c'est pour vous, en direct de chez vous, votre chanson préférée.
Jeannine, disjockey.
ce sang, c'est la cigarette qui brûle mes doigts.
Ça a l'air bien.
C'est sûr.
On imagine la pluie dehors, hein.
Ça a l'air d'être une jolie chanson.
Absolument. J'ai les doigts jaunes.
Ah mais j'ai le disque aussi. J'ai
les doigts
jaunes à force de fumer la cigarette. Mais reviens donc, tu m'égottes. Il faut venir, ma Charlotte, car je t'aime
et je te ferai descendre.
Oui, viens, ma Charlotte, que je te pelote
avec mes doigts qui puent.
La clope. Allez, Vaina maintenant, Vaina.
Mais vous savez, j'aurais dû m'en souvenir parce qu'on a le disque chez nous aussi. Mais on en a fait des sous-bocs.
Non. Il est super, Dave.
Bon anniversaire, Janie. Bon
anniversaire. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Eh oui, un peu de culture générale, d'autant qu'on aura après au téléphone l'historien Gérard Noiriel à propos de cette question. Sous quel nom connaît-on mieux Raphaël Padilla et Tudor Hall? Sous quel nom connaît-on mieux Raphaël Padilla et Tudor Hall?
Bon, alors il y en a un qui est espagnol et l'autre qui est anglais déjà.
Il y en a un qui effectivement
latino.
Est anglais et l'autre qui est plutôt, on va dire
italien.
Je
sais pas.
Américain, on va dire, oui.
C'est un homme, une femme.
C'est les vrais noms de Dolce Gabbana, non?
Non.
C'est histoire, c'est
mais
l'histoire.
C'est bien ça. Ça pourrait être les vrais noms de Dolce Gabbana.
Non, mais si vous dites historien, c'est qu'ils sont pas vivants ces gens-là.
Ah, ils sont pas vivants.
Non.
Mais Tudor.
Tudor, un rapport avec Henri Tudor, avec la famille Tudor.
C'était des peintres ou des sculpteurs?
Ils datent en tout cas, les deux garçons en question, du 19e siècle. Fin 19e.
Ils ont peint quelque chose, une œuvre. Ce sont des artistes.
Ils n'ont pas peint.
C'est les vrais noms des frères Lumière.
Ils étaient ensemble. Ce sont des artistes.
Ils étaient ensemble en tout cas quand on les voyait. Ils étaient ensemble. Maintenant, ils n'étaient pas ensemble dans la vie, je ne pense pas.
Des artistes.
C'était des artistes.
Des artistes.
Des chanteurs.
C'était des clowns.
Non,
c'est vrai.
Oui, bravo.
Eh ben,
c'est foutu tes chocolats.
Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est quoi?
Alors là, mais comment vous avez la mémoire?
Comment je peux être battu sur foutu de ces chocolats, moi qui suis le seul à connaître leur nom?
J'avais pris la question uniquement pour Pierre, pour que Pierre puisse nous donner la réponse. Et c'est Michel.
Foutu de ces chocolats, c'est des clowns aussi célèbres que Maïs and Baby.
C'est qui Maïs and Baby?
C'est effectivement.
C'est des clowns comme foutu de chocolat.
Les vrais noms de foutu et chocolat. Bonne réponse, bravo, de Jérémy Michel.
Bravo Jérémy. Bravo. Tu vois, ça fait plaisir d'avoir des bons disciples.
Tu vois, les clowns du 19e, c'est ma spécialité.
Eh ben, croyez pas ça, parce que dans l'Express, cette semaine, il y avait tout un papier que Boris Thiollet consacrait non seulement à Foutite et Chocolat, mais aussi à Gérard Noiriel, l'historien qu'on a maintenant en ligne, et qui signe tout un livre sur les mémoires de Foutite et Chocolat. Bonjour, monsieur Noiriel.
Bonjour.
Et c'est vrai que moi, ça m'a drôlement intéressé ce papier, d'autant plus qu'effectivement, par hasard, il y a à peine un mois, trois semaines, Pierre Bénichou ici, s'était fait un peu moquer par les autres chroniqueurs, parce que il nous avait sorti ce nom de duo qu'on ne connaissait pas, Foutite et Chocolat, oui. et on s'est dit, mais d'où ça sort ça, Foutite et Chocolat?
Parce qu'il pensait que Zac Efron, c'était deux clowns.
Exactement, c'était à propos du comédien américain Zac Efron, où il croyait...
Oui, c'est vrai que ça fait deux clowns, c'est vrai.
On dirait deux clowns, c'est comme Foutite et Chocolat.
N'importe quoi.
Vous connaissez même pas Bonabo de Luca Costello, vous, non?
Ah si, vous connaissez.
Laurel et Hardy, quand même, vous connaissez.
Oui,
Monsieur Noiriel.
C'est pas la peine de nous engueuler.
Monsieur Noiriel, vous êtes historien spécialiste de l'immigration et du racisme, et vous avez souhaité consacrer un livre à Foutite et Chocolat parce que c'est un bon exemple de ce qu'était le racisme.
Il en imprime qu'un, hein, pour Pierre.
Mais non, croyez pas ça, parce que je suis sûr que ça pourrait même faire un film, leur histoire. Moi, tout de suite, ça m'a passionné, ce que j'ai pu lire dans dans cet article et j'ai hâte de lire votre livre, monsieur Noiriel.
Oui, ceci dit, le livre, il n'est pas encore écrit.
Ah zut.
Là, pour le moment, nous faisons un spectacle. Hein. C'est un spectacle, effectivement, dont j'ai écrit le texte, dans la perspective moi-même d'écrire un livre ultérieurement, mais pour le moment, je suis qu'au début des investigations. Mais effectivement, j'ai découvert, moi, aussi assez récemment, l'histoire de Chocolat, et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Alors, racontez-nous un peu, en deux mots. Hein.
Ce clown Chocolat, donc Raphaël Padilla, on n'est même pas sûr de son nom. Hein. En fait, c'est un esclave, il était esclave à Cuba dans les années 1860, et donc c'est un esclave affranchi qui a quitté Cuba et qui, par toute une série de hasards, est arrivé en France, et il a fait 1000 métiers, et finalement, donc, il s'est fait embaucher comme ça, comme clown, et il a fait ce fameux duo avec Foutit, qui était extraordinairement populaire, à tel point que même l'expression qu'on trouve encore aujourd'hui dans le dictionnaire « être chocolat », « être berné », etc., ça vient de là.
C'est génial. Alors, être chocolat, vous savez que être marron, comme on dit, il m'a fait marron, ça vient de chocolat aussi.
Ah, ça va, là vous m'apprenez quelque chose.
Mais bien sûr, je vais vous apprendre plein de trucs, mon grand.
C'est très bien, merci.
Et alors, ce que j'ignorais, que j'apprends dans le papier de l'Express, c'est que les personnages, vous allez voir jusqu'où ça va, de Foutit et Chocolat, ont inspiré à Samuel Beckett les personnages de Pozzo le maître et de Lucky l'esclave pour sa pièce En attendant Godot.
Parce qu'au départ, la relation Foutit et Chocolat, elle est extrêmement violente, si vous voulez. C'est ça aussi un des enjeux, c'est-à-dire tout le monde rigole parce que Chocolat est ridicule, Chocolat est battu, etc. À l'époque, c'est ça qui est assez, je dirais, problématique, c'est que les Français rigolaient de voir l'humiliation du noir, quoi. C'est un petit peu l'idée, c'est au début de la colonisation.
Mais c'est dégueulasse. Oui,
voilà. Et c'est une mise en forme, j'allais dire, populaire du discours colonialiste sur la supériorité des blancs sur les noirs.
Je voudrais poser une seule question. Est-ce que vous avez retrouvé des textes de Foutit et Chocolat?
Oui.
Ou est-ce que vous les avez réinventés?
Ah non, j'ai retrouvé à Richelieu, là, à la Bibliothèque nationale, leurs sketchs, oui, leurs numéros, et on les rejoue.
Vous pouvez nous dire deux répliques, par exemple?
Il y en a une qui est, c'est le sketch du chef de gare, ça s'appelle, donnez-moi trois hommes, s'il vous plaît, c'est Foutit qui dit ça, un anglais, un italien et un chocolat. Pour l'anglais, il fait des courbettes. Pour l'italien, il lui donne quelques coups de pied. Et pour le chocolat, il le pousse dans le wagon en lui donnant des coups de pied aux fesses en disant « Avance, sale nègre ».
Ça faisait rire les gens.
C'est assez fin.
Voilà, c'était un des sketchs les plus populaires, enfin qui.
Et Toulouse-Lautrec a peint le clown chocolat.
Voilà, Toulouse-Lautrec a peint. Il y a deux lithographies de Toulouse-Lautrec de chocolat, et avec toute l'ambiguïté de la représentation, enfin, il lui donne un petit peu quand même un visage simiesque, comme on disait à l'époque. Donc il y a le stéréotype quand même du primitif qui ressemble au singe, etc. Donc c'est une manière, je dirais aussi, de montrer toutes les contradictions du pays des droits de l'homme, je dirais, à ce moment-là.
Mais oui, on vient de très loin.
Il était complice de ça. Enfin, le faisait marrer.
Voilà, c'est tout le pathétique, je dirais, de c'est ça qui aussi m'intéressait, c'est le statut du rire, c'est-à-dire les contradictions, on ne rit pas des mêmes choses aux mêmes époques. Et puis lui, finalement, ça l'a sorti de la misère, hein, ce statut de stéréotype. Donc il s'est conformé au stéréotype aussi pour s'en sortir, quoi.
Sauf que ça s'est mal terminé pour lui, parce que le duo, évidemment, s'est séparé. Après, il s'est lancé Chocolat avec son fils adoptif, nous raconte Boris Thiollet, dans un autre duo improbable qui s'appelait Tablette et Chocolat. Ça paraît incroyable. Tablette et Chocolat. Et là, ils ont fait un bide, hein, ensemble, Tablette et Chocolat.
C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez eu l'affaire Dreyfus, et ça devenait impossible en France de montrer sur une scène publique un blanc tapant sur un noir. Ça, c'était l'Amérique. Ça, c'était, vous voyez, le lynchage des noirs, c'était bon pour l'Amérique, mais nous, en France, on était, vous voyez, comme les choses
ont changé.
On était le pays des droits de l'homme, donc on pouvait plus supporter ça. Du coup, Chocolat, il avait plus de boulot, quoi.
Et donc, c'est grâce à l'affaire Dreyfus qu'on avait plus le droit de taper sur les noirs en France. Il faudrait dire ça à Dieudonné.
En tout cas, sur une scène, hein, sur une scène, voilà.
Il est mort en novembre 1917, dans l'alcoolisme, dans la misère, dans l'anonymat aussi.
Dans l'alcoolisme, non, c'est Foutit qui a sombré dans l'alcoolisme.
C'est Foutit qui buvait tout.
Boris Thiollet dans l'Express nous dit alcoolique, il meurt en novembre 1917.
Bien sûr. Ah non, là, je pense pas, c'est Foutit, mais Chocolat, il est mort effectivement dans. dans une grande misère parce qu'il n'y avait plus de boulot.
Le clown chocolat, la vedette noire qui faisait rire les Français à ses dépens, conclut Boris Thiollet dans son article de l'Express, est enterré avec les indigents au cimetière protestant de Bordeaux, rue judaïque, comme un ultime pied de nez aux haines de son temps. C'est un joli article et je suis sûr que vous pourriez en tirer un joli livre de votre spectacle et de vos recherches. Foot it et chocolat sur scène. Merci pour votre témoignage, monsieur Noiriel. Vous êtes historien spécialiste du racisme et de l'immigration. Bravo.
Merci à vous.
Qui va participer au tournage de Fort Boyard pour la première fois?
Fort Boyard.
Alors, si c'est Mimi Mathy, c'est drôle.
Non, pas Mimi Mathy.
Un homme?
C'est un homme.
Pourquoi c'est surprenant?
Bah, parce qu'on n'imagine pas faire
Van Damme.
Ça. Non, pas
c'est
Van Damme.
Pas Carlier, c'est Guy pas Carlier. Un mec physique.
Guy Carlier. Non, pas Guy Carlier. Il n'y a pas d'élastique pour.
C'est un mec qui n'est pas connu pour ses qualités sportives physiques.
Il est âgé.
C'est un intello?
Si. C'est un intello, mais.
BHL.
Il a fait déjà.
Ah non! Alors, le petit qui fait du roller?
Slimy,
Arnaud Klarsfeld.
Non,
Slimy.
Non. Oh, tu imagines Sim, c'est le seul mec qui est plus vieux que le père Fouras.
Slimy, mais non pas Slimy.
Est-ce que c'est un vieux?
Oh, c'est quelqu'un. Non, il serait pas content qu'on dise qu'il soit vieux. Il a la soixantaine.
C'est un pote à toi alors.
Non, c'est pas un pote à moi, mais il a la soixantaine.
C'est un mec de télé.
Gérard Miller.
Et il a déjà prouvé qu'il était plutôt sportif. Pas Gérard Miller.
Gérard Klein.
Non.
Genre Gérard Miller.
Comment ça, genre Gérard
Miller? Un télo, c'est un télo.
Ah, ils ont des points communs.
Ah, il est communiste. Olivier Besancenot.
Non,
60 ans, on a dit.
Psychanalyste.
Non.
Robert Rue.
Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup à la télé?
Attendez, des liens avec.
Qu'on voit moins.
Non. Attends. Ils ont un point
qu'on voit moins. Qu'on voit moins récemment.
Qu'on voit moins.
Pas Bertrand Cantat.
Non.
Il n'y a pas 60 ans.
Fort Boyard.
J'imagine, il va défoncer la gueule des mecs.
Bien sûr. C'est sûr que après.
C'est la seule émission, il y aura un candidat.
Il y a Féline Bra qui va tourner la tête de tigre, il arrive, il la déglingue.
Et puis après avoir passé quelques années en prison, faire Fort Boyard, vraiment, c'est. Ça rappelle les bons souvenirs, tout ça. Donc c'est très cool, c'est une bonne idée, ça.
Je sais pas, c'est la façon dont vous avez dit, on le voit plus beaucoup.
Ouais, non, mais en plus,
c'est un animateur de télévision.
Miller.
C'est un animateur de télévision.
Ah, bah oui, c'est de
Patrice Lafont.
Le mot animateur n'est pas tout à fait approprié, mais c'est en tout cas une star de la télévision.
C'est un chroniqueur.
Non.
Un genre Bernard Pivot, un genre comme ça.
Philippe Risoli.
Bernard Pivot dans Fort Boyard.
Non, mais un genre, j'ai dit.
T'imagines?
Genre, oui, parce qu'il a fait les mêmes émissions que celles de Bernard Pivot.
Ah, alors, Field.
PPDA.
Non.
PPDA. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Patrick Poivre d'Arvor.
Non, mais il sait plus quoi faire.
Mais comment il va faire si demande de plonger dans l'eau.
Pourquoi?
Avec les cheveux.
Il est sportif, il a fait je sais pas combien de marathons.
Très sportif, mais c'est une maladie.
Ouais.
C'est une maladie de se faire voir, quoi. C'est fou, c'est une maladie.
Et le point commun, c'était l'aspect Don Juan, évidemment, et de PPDA et de Gérard Miller, voyez.
Moi, je croyais que c'était le côté PD honteux, non?
PPDA dans Fort Boyard. Il y a une autre chose assez surprenante que j'ai découverte cette fois dans Closer. C'est qui va être un des prochains invités de Frédéric Lopez dans l'émission En Terre Inconnue?
Une femme?
Une femme, non. Il y a Marianne James qui va être 3 semaines en Indonésie avec Frédéric Lopez à la rencontre de Bajau. Mais là, c'est encore plus étonnant.
Alors, c'est forcément quelqu'un qui a une personnalité assez humoriste. Il a toujours pris des gens genre humoristes ou genre comédiens ou des très bons clients.
La destination va nous aider?
Non,
ou pas
vraiment.
Mais là, c'est pas un humoriste, en tout cas.
C'est un homme politique.
Alors, la destination, je ne sais pas laquelle c'est pour l'instant.
Non, pas d'accord.
Et lui non plus, puisque l'invité ne sait jamais.
C'est un homme politique?
Ce n'est pas un homme politique encore. Qu'il se soit quelque peu rapproché ces derniers temps de la politique.
Alors
c'est
Francis Lalanne.
C'est pas Klarsfeld.
Non.
Comme bon client.
Non, mais quand vous allez avoir les réponses, vous allez voir, c'est à peu près aussi surprenant que PPDA dans Fort Boyard.
Ça serait bien qu'il l'emmène Francis Lalanne, mais
okay,
qu'il le laisse.
Ok, c'est pas Michel Houellebecq.
Non.
Oh, putain, c'est pas un intello.
Non.
Ah, c'est pas un intello, les enfants. C'est un acteur.
Un acteur, non.
Un chanteur.
Un chanteur, oui.
Un chanteur qui s'est rapproché de la politique.
Michel Sardou?
Non.
Julien Clerc?
Non.
Oui. Enrico Macias?
Enrico, non.
C'est un soutien de Sarkozy?
Mais on se rapproche, oui.
Faudel?
Non. Gilbert Montagnier?
Gilbert Montagnier, bonne réponse de Michel Bernier!
En terre inconnue, lui.
Oui.
Remarque, où est-ce qu'il... Ah, Gilbert, il s'en fout de pas savoir où il va.
Bah oui, de toute façon, il verra rien. On va lui raconter n'importe quoi.
Mais c'est quand même énorme, non?
Ils vont l'amener à Boulogne-Billancourt.
T'as Gilbert, tu penses... Mais sa vie en terre inconnue.
Il sort de chez lui, il est en terre inconnue. Hein.
Tu sais qu'une fois, il est resté 15 jours à la Croix Boulevard, il croyait qu'il était aux Antilles.
C'est pas vrai. Non, parce que vous vous moquez, mais...
Il avait la compagnie qui ferait... créole en première partie.
C'est un type qui ferait n'importe quoi pour voir du pays. Hein.
T'as vu ce paysage un peu.
Non, mais il faut reconnaître que c'est assez étonnant.
Et surtout, il va falloir que Frédéric Lopez emmène Nicole, emmène Madame Montagnier.
Parce ah bon, qu'il... pourquoi ah
bah parce que Nicole, elle s'occupe de lui toute la journée, tout le temps. Il va faire tout, Frédéric.
Ah oui, bah oui, peut-être, il va tout faire.
Est-ce qu'il va lui faire une valise avec ses chemises préférées?
Pour qu'on puisse rigoler après.
C'est peut-être aussi...
J'imagine
de
se faire bouffer
avec
ses chemises à fleurs.
Les cannibales. On dit putain, regarde, il y a un zèbre.
Moi, je crois que c'est plutôt le. Ça cache quelque chose, c'est des émissions. C'est plutôt le retour de la caméra cachée, moi, je crois.
Montagnier, PPDA. Non, mais je te jure. Mais en qui croire maintenant?
Non, mais c'est. Voilà, après tout, pourquoi pas? Gilbert Montagnier en terrain.
Mais attendez, il a bien piloté un avion.
Il n'existe pas que par la vue. Il va parler avec des gens,
Non, non, non. Il n'a pas le droit de parler, pas le droit de toucher.
Il faut qu'il se bouche.
C'est un nouveau concept.
Ah, uniquement chauve.
Mais peut-être qu'il va à la rencontre d'autres aveugles dans des terres inconnues.
Ah, bah c'est pas bête ça. Voilà. Ah oui, oui, des non-voyants.
Comment, des non-voyants, comment ils font là-bas sans
socialistes.
Bras,
sans
rien, voilà.
Surtout, c'est comment ils vont se retrouver, quoi.
Vous iriez, vous, en terre inconnue, Michel?
Ah non, moi j'ai refusé, moi. Ah,
avez refusé?
Ouais, on t'a proposé.
Oui, oui, bien sûr, mais. Bah oui, donc j'ai dit non, non, moi je peux pas partir sans savoir où je vais.
Vous, Christine, on vous a proposé d'aller rive droite, par exemple?
Ah, mais t'es, c'est exactement ça.
L'émission à risque.
Titoff à Bordeaux.
Ça, c'est vraiment le danger. Attention, danger.
Et Caroline Diamant au Soudan. Et Michalak chez les Harlem.
Michalak avec le fils de Yannick Noah.
Chez les Pygmées, ça serait pas mal de. Ouais. Il verrait un Pygmée blanc pour la première fois.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut à tous.
Salut Serge.
Et aujourd'hui, alors, vous nous avez préparé ce qu'on aime de plus en plus, les fameuses hallucinations sonores. Ah, c'est-à-dire des chansons interprétées en version originale, anglais, espagnol ou autre, mais dont on pourrait penser que certaines phrases donnent aussi des phrases en français, hein, c'est bien ça?
C'est ça, on se demande si on a bien compris, parce que en français ça donne un autre sens et on se demande si la chanson est pas en français. Ah, en fait non, en effet, elle est pas en français, elle peut être même en arabe. J'ai trouvé des chansons arabes et des chansons hindoues aujourd'hui.
Et alors, vous avez en plus créé une petite histoire qu'on va découvrir dans quelques secondes, mais j'aimerais quand même signaler que vous entendrez donc en version originale, mais... En vous faisant croire peut-être que c'est du français, Jimi Hendrix, entre autres, Police, Barbara Streisand, Avril Lavigne, Foreigner, David Bowie et Céline Dion, il y en a d'autres, écoutez.
Elle ne désemplit pas la petite agence pour l'emploi. Quand on demande s'il y a des chômeurs dans la salle d'attente, ils répondent oui, on est là.
Oui, on est là.
Oui, on est là.
Oui, on est là.
Dites-moi Marcel, de vous retrouver demandeur d'emploi, ça vous fait quel effet?
Ça vous fait quel effet?
C'est dur, répond Marcel. Vous savez, le boulot que j'ai perdu, c'est le job de toute une vie.
C'est le job de toute une vie.
Et là, il y a René qui enchaîne. Vous savez, c'est pas facile de se recycler. Regardez, moi qui vends de la moule. J'arrondis mes fins de mois comme aide inséminateur pour les espèces sauvages en voie d'extinction. Ouais, y a un copain qui masturbe les furets. Eh bien moi, dit Denise, j'avais un boulot encore plus con. Avec mon mari, on lavait des chats battus.
Moi, on lavait des chats battus.
Eh bien moi, dit son jeune voisin, je travaille dans un salon thaïlandais. Oui, je suis un masseur.
Je suis un masseur.
Moi, dit René, avant j'étais jardinier, mais j'ai niqué la pelouse avec les gaz d'échappement de la tondeuse. Le patron m'a viré quand il a vu son gazon. Son gazon gazé.
Son gazon, 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 son gazon gazé.
Ça n'a pas plu du tout à sa femme. Faut dire qu'elle est hyper coincée. Le genre de gonzesse, elle chie des balais.
Chie des balais.
Alors j'ai eu des moments difficiles. Je pouvais plus payer mes traites. Les huissiers sont venus. Ils ont embarqué mon sofa. Un très beau sofa. Et j'habite à présent dans une banlieue difficile où on n'a pas le droit de dire que Ben Laden y est moche, même pas pour rire, même pas pour rire.
Ben Laden y est moche, mais
non,
pas pour rire.
Oh ça René, c'est le genre de sujet à éviter. Regarde donc Denis s'en aller, vexé. Attends, je la rappelle. Denise, tu pars avec la voiture? Embarque Marcel.
Oh, ma, ma, hey, hey.
Et voilà, on termine avec Céline Dion. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Hein. Bravo, Serge.
Nous avons la petite Sophie en ligne. Sophie ?
Moi, je voudrais parler de mes parents.
Dis-nous tout, Sophie.
Voilà, sur la route des vacances, on a eu une serviette de plage.
Ah, tu veux parler de l'offre totale qui te permet de repartir avec une serviette de plage Lucky Luke ou Boulet Bill pour un plein de 30 litres plus 4,99 euros.
Bah là, c'est mon père qui est reparti avec.
Non.
Et moi, il m'a refilé sa serviette de plage bleue toute moche.
Mais c'est scandaleux, ça.
Ouais, comme vous dites.
Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur total.fr. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et on repart dans le jeu des questions. Vous allez être aux côtés de Jérémy Michalak ou Gérard Miller, par exemple, pour répondre à cette question de Laurent Ruquier.
Pour quelle raison cette petite fille de 5 ans comprend le russe, mais ne peut pas le
parler.
Elle est muette.
Elle est muette.
Les deux en même temps ont été connectés.
Non, elle n'est pas muette.
Elle n'est pas
car
muette.
Elle a une caractéristique.
C'est la muette de Chekhov.
Non, parce que personne ne parle le russe dans sa famille, donc elle peut pas parler toute seule, en fait.
Pardon?
Personne autour d'elle ne parle le russe, donc elle ne peut pas
parler
seule.
Alors là, on commence à se...
Elle a appris le russe
à
grâce
se rapprocher. À... C'est une histoire, je pensais que vous l'aviez lue dans la presse, c'est une histoire assez tragique, je dois dire.
Ah bah. C'est une vraie petite fille.
C'est une petite fille qui a été trouvée.
Ça, alors, c'est une petite fille qui a été, si ce n'est trouvée, en tout cas découverte, oui. Voilà,
donc elle a été abandonnée.
Abandonnée, pas tout à fait, et oui, en même temps. Sur les agents de la protection de l'enfance de Sibérie orientale qui ont découvert cette fillette de 5 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette fillette...
Elle avait grandi dans une cave, comme un enfant sauvage.
C'est-à-dire
qu'elle a été élevée par des animaux.
Par des loups.
Exactement. Des loups. Alors, pas par des loups, mais par...
Par des chiens.
Des chiens et des chats. C'est une fillette de 5 ans, élevée par des chiens et des chats, et qui ne communiquait qu'avec le langage des animaux, selon la police locale.
Mais alors, les animaux parlaient le russe, parce qu'elle ne comprend pas le russe. Ah, c'est vous qui l'avez dit, Laurent. Qu'elle comprenait le russe.
Il y a des pas...
Non, parce que ses parents et ses grands-parents vivaient dans la même habitation, mais ils ne s'occupaient absolument pas d'elle, ils ne l'autorisaient pas à sortir. Elle était dans une pièce avec les chiens et les chats, donc j'imagine qu'elle entendait parler russe quand même, et que peut-être elle le comprenait, mais qu'en revanche, on ne lui a jamais appris à parler.
Mais alors, elle parlait couramment le chien ou le chat? Parce qu'on ne sait pas du tout.
En tout cas, non, c'est assez terrible. Elle a été placée fort heureusement dans une institution, et elle reçoit aujourd'hui une aide médicale.
À la SPA, oui.
Et puis sinon,
c'est odieux.
Je fais du éboué de temps en temps. Je tente aussi du éboué, excusez-moi.
Non mais remarquez, il paraît... Non, c'est affreux parce que vous... Ne riez pas.
Pourquoi,
mais elle continue à sauter contre les murs. Et à aboyer quand le personnel soignant quitte la pièce.
Elle a mordu un facteur la semaine dernière, il paraît.
C'est affreux, vous imaginez.
Ce qui est pratique, c'est surtout parce que maintenant ils savent quand il va pleuvoir, elle se gratte l'oreille. Avec le pied, elle se gratte l'oreille avec le pied en plus.
C'est l'occasion de conseiller ce sublime film de Truffaut qui s'appelle L'enfant sauvage.
Ah oui, vraiment
le vrai récit d'un enfant sauvage.
À 5 ans, c'est... Alors, là, je me tourne vers le psy.
Les dégâts.
5 ans, les dégâts.
Est-ce qu'elle est sauvable?
Non, mais 5 ans, en âge du chat, tu multiplies par 7, normalement.
Est-ce qu'elle est sauvable, Gérard?
Tout se joue avant 6 ou 7 ans, donc elle a encore un ou deux ans pour...
Elle peut espérer avoir une vie professionnelle normale.
Je ne veux pas parler de ce qu'a été ton enfance, mais enfin, elle était légèrement plus dramatique que la sienne. Tu vois que t'es chez Laurent Ruquier, donc tous les espoirs sont perdus pour elle.
Si l'année prochaine, vous entendez miaou autour de la table, c'est que je l'ai engagée comme chroniqueuse. Non, c'est affreux.
C'est affreux, mais quand ils l'ont retrouvée, il y avait son nom sur le collier ou pas?
Non, elle était tatouée dans l'oreille.
Ceci dit, heureusement que c'était en Russie, que c'était pas en Chine, parce que sinon, il aurait mangé en plus.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Et on repart dans le jeu des questions. Vous allez être aux côtés de Jérémy Michalak ou Gérard Miller, par exemple, pour répondre à cette question de Laurent Ruquier.
Pour quelle raison cette petite fille de 5 ans comprend le russe mais ne peut pas le parler?
Elle est muette.
Elle est muette.
Les deux en même temps ont été connectés.
Non, elle n'est pas muette.
Elle n'est pas
car
muette.
Elle a une caractéristique.
C'est la muette de Chekhov.
Non, parce que personne ne parle le russe dans sa famille, donc elle peut pas parler toute seule, en fait.
Pardon?
Personne autour d'elle ne parle le russe, donc elle ne peut pas parler seule.
Alors là, on commence à se...
Elle a appris le russe
à
grâce
se rapprocher. C'est une histoire, je pensais que vous l'aviez lue dans la presse. C'est une histoire assez tragique, je dois dire.
Ah bah.
C'est une vraie petite fille. C'est une petite fille qui a été trouvée.
Adoptée.
Alors, c'est une petite fille qui a été, si ce n'est trouvée, en tout cas découverte, oui.
Voilà, donc elle a été abandonnée.
Abandonnée, pas Tout à fait, et oui, en même temps. Ce sont les agents de la protection de l'enfance de Sibérie orientale qui ont découvert cette fillette de 5 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette fille
avait grandi dans une cave, comme
un enfant sauvage.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'elle a été élevée par des animaux,
par des
loups. Exactement. Des loups. Et, alors pas par des loups, mais
par des chiens,
des chiens et des chats. C'est une fillette de 5 ans élevée par des chiens et des chats et qui ne communiquait qu'avec le langage des animaux, selon la police locale.
Mais alors les animaux parlaient le russe parce qu'elle ne comprenait pas. Ah, c'est vous qui l'avez dit, Laurent, qu'elle comprenait le russe.
Il y a des que ses parents et ses grands-parents vivaient dans la même habitation, mais ils ne s'occupaient absolument pas d'elle, ils ne l'autorisaient pas à sortir, elle était dans une pièce avec les chiens et les chats, donc j'imagine qu'elle entendait parler russe quand même, et que peut-être elle le comprenait, mais qu'en revanche on ne lui a jamais appris à parler.
Mais alors, elle parlait couramment le chien ou le chat? Parce qu'on ne sait pas du tout le...
En tout cas, non, c'est assez terrible, elle a été placée fort heureusement dans une institution, et elle reçoit aujourd'hui une aide médicale.
À la SPA, oui.
Et puis sinon,
c'est odieux.
Je fais du éboué de temps en temps.
Je tente aussi du éboué, excusez-moi.
Non mais remarquez, il paraît... Non, c'est affreux parce que vous... Ne riez pas.
Pourquoi,
mais elle continue à sauter contre les murs.
C'est horrible. Oh,
et à aboyer quand le personnel soignant quitte la pièce.
Elle a mordu un facteur la semaine dernière, il paraît.
C'est affreux. Puis, vous imaginez.
Ce qui est pratique, c'est surtout parce que maintenant ils savent quand il va pleuvoir, elle se gratte l'oreille. Tout ça.
Avec le pied, elle se gratte l'oreille avec le pied en plus.
C'est l'occasion de conseiller ce sublime film de Truffaut qui s'appelle L'enfant sauvage.
Ah oui, vraiment
le vrai récit d'un vrai enfant sauvage.
À 5 ans, c'est. Alors là, je me tourne vers le psy.
Les dégâts.
5 ans, les dégâts.
Est-ce qu'elle est sauvable?
Non, mais 5 ans, en âge du chat, tu multiplies par 7 normalement.
Est-ce qu'elle est sauvable, Gérard?
Tout se joue avant 6 ou 7 ans, donc elle a encore 1 ou 2 ans pour.
Elle peut espérer avoir une vie professionnelle normale.
Je veux pas parler de ce qu'a été ton enfance, mais enfin, elle était légèrement plus dramatique que la sienne. Tu vois que t'es chez Laurent Ruquier, donc tous les espoirs sont perdus pour elle.
Si l'année prochaine, vous entendez miaou autour de la table, c'est que je l'ai engagée comme chroniqueuse. Non, c'est affreux.
C'est affreux, mais quand ils l'ont retrouvée, il y avait son nom sur le collier ou pas?
Non, elle était tatouée dans l'oreille.
Ceci dit, heureusement que c'était en Russie, que c'était pas en Chine, parce que sinon, il aurait mangé en plus.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Je veux pas me retourner, c'est sûr, elle doit me regarder.
Pas du tout.
À tous les coups, elle m'a vu, elle fait genre je l'ai pas reconnue.
Pas du tout.
Elle veut que je fasse le premier pas, elle espère, elle croise les doigts.
Pas du tout.
La pauvre n'ose pas m'aborder, elle doit être intimidée.
Pas du tout. Pas du tout.
J'ai une vision très nette de la situation.
Pas du tout.
Ça saute aux yeux.
Pas du tout.
C'est parfaitement clair.
Pas du tout.
Ce mec ne m'aime pas, je le sais, et ça se voit.
Pas du tout.
Il m'a toujours détesté depuis que l'on s'est rencontrés.
Pas du tout.
Il dit du mal dans mon dos et me provoque à demi-mot.
Pas du tout.
Son copain d'à côté, lui m'a toujours apprécié.
Pas du tout. Pas du tout.
J'y vois très clair dans son petit manège.
Pas du tout.
Lucidité, justesse, exactitude.
Pas du tout.
Et intuition, quand même.
Pas du tout.
Cette dame âgée qui fait ses courses est gentille et très douce.
Pas du tout.
Elle adore ses petits enfants qu'elle couvre de cadeaux tout le temps.
Pas du tout.
Elle mijote des petits plats, en veux-tu, en voilà.
Pas du tout.
Des petits napperons et des graines aux pigeons.
Pas du tout. Pas du tout.
C'est sûr et certain.
Pas du tout.
C'est limpide.
Pas du tout.
Rien ne m'échappe, hein. Je suis un sniper, un rapace.
Pas du tout.
Des raisons d'être fier, ma chanson elle est super.
Pas du tout.
Elle est belle et bien pensée, tout le monde va l'adorer.
Pas du tout.
Mes musiciens vont être contents, ils trouvent que j'ai beaucoup de talent.
Pas du tout.
Vous voulez dire par là qu'il y a des choses que je sais pas du tout.
Pas du tout.
Comment ça, pas du tout, je comprends pas.
Pas du tout.
Ah, vous voulez dire que j'ai raison donc, bah parce que moi
pas
aussi.
Pas du tout.
Ça voudrait dire que j'ai tort. Alors...
Pas du tout.
Ah oui, mais pas tous ensemble. C'est qui le chef? À qui
pas
je m'adresse?
Du tout.
C'est toi le. Oui, viens là.
Pas du tout.
Arrêtez de répéter ça.
Pas du tout.
J'ai raison et puis c'est tout.
Pas du tout.
C'est Benabar, bien sûr, et la suite est tout aussi évidente. C'est le best-of dont va se gêner à 17h13 sur Europe 1.
Eh ben moi, je vais vous parler d'une Isabelle, comme vous, Isabelle Motreau. Mais elle, son nom, c'est Isabelle Kell. Divine Isabella, c'est son surnom. Mais pourquoi a-t-elle pris ce pseudonyme Divine Isabella?
C'est marrant, elle a le même surnom.
On dirait une chanteuse gothique, un peu. Ou un truc.
Ah non, c'est pas une chanteuse gothique.
C'est Isabella Gianni?
Non.
C'est bonjour au théâtre?
Pas du tout.
C'est un nom de scène, quand même.
Une chanteuse?
En quelque sorte.
Ah, c'est un truc SM dans des soirées, peut-être.
Oh non.
Maîtresse
non,
Isabelle.
Non, c'est un truc religieux.
On parle pas de sexe dans cette émission.
C'est religieux.
C'est pas religieux.
C'est une chanteuse? Non.
Une chanteuse qui vient. Alors voilà, on serait là dans une émission de variété. Il y aurait Guy Lux. Divine Isabella.
Bah oui.
Mais non, enfin voyons.
C'est une bonne sœur, une bonne sœur.
Une bonne sœur, sœur Divine Isabella.
Ah, c'est le personnage d'un roman alors.
Un roman.
Non, il a dit que c'était un
monstre. Voyez un roman. Le matin par la brume, Divine Isabella.
Non.
C'est un animal.
Un animal. Non. Voyez Divine Isabella. Non.
Divine non mais Isabelle, attendez, là. Laurent, redites la question, est-ce que je ne sais
pas. Ah ben elle est très simple la question. Isabelle Kell, c'est son vrai nom, a pris un pseudonyme, Divine Isabella. Pourquoi a-t-elle pris ce petit pseudonyme, ce petit surnom?
C'est le surnom d'Isabelle Motreau pour des parties fines.
C'est le surnom d'Isabelle Motreau pour des parties fines. Bonne réponse.
Non, alors ça, Divine on Isabelle. Avait dit qu'on ne parlait pas de la vie privée des gens à l'antenne. Moi, je vais avoir plein d'ennuis. Mes enfants écoutent. Et non, non c'est pas chic, Laurent. C'est moche ce que tu viens
mais
de
non,
faire.
Enfin, voyons.
Divine Isabelle. Je suis allergique au latex.
Non mais il s'agit bien d'un truc de spectacle.
Bien sûr.
C'est pas une des danseuses du Crazy Horse comme elles ont tous des faux noms.
Ah, ils sont sur scène.
Scène, c'est pas tout à fait le mot.
Mais c'est dans la rue, c'est un spectacle de rue.
Non, pas dans
il
la rue.
Il s'agit d'un truc un peu chaud quand même.
Qu'est-ce que vous appelez un peu chaud?
C'est pas des trucs SM, mais
des bagarres dans la boue, des choses comme ça, érotiques.
C'est une catcheuse.
Catcheuse.
Bonne réponse de Jérémy Michalak et Isabelle Motreau. Et on l'a au téléphone, Divine Isabella. Bonjour.
Bonjour.
Salut. Ça va?
Et non, tu t'es fait avoir, voilà.
Elle a une jolie voix féminine, Isabelle. Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Meilleure catcheuse de France.
Oui.
Ça veut dire que vous avez gagné le championnat?
Tout à fait, les qualifications au niveau du championnat de France m'ont permis de gagner ce match.
Et vous allez peut-être devenir championne d'Europe, puisque vous participerez au prochain championnat d'Europe.
C'est ce que j'espère, voilà, j'en ai fait la demande à la tentatrice du titre aujourd'hui qui est en Grèce, et donc voilà, j'attends sa réponse.
Je vous vois là en photo dans France Soir, vous entraînez avec Flash Gordon, ça c'est un nom réputé dans le milieu du catch.
Tout à fait, ouais, je choisis les meilleurs pour pouvoir justement avancer.
Mais vous êtes combien de catcheuses? Il y en a tant que ça en France, des catcheuses?
On est à peu près une cinquantaine en Europe, hein, puisque nous faisons partie de la fédération de catch sportif européen.
C'est du vrai catch ou c'est truqué ou c'est des matchs truqués là?
Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que mes origines de lutteuse m'ont permis d'accéder à cette ambition de devenir catcheuse. Donc j'ai un parcours sportif très élevé.
Vous avez commencé par la lutte, hein?
Oui. Tout à fait. Où j'ai eu aussi
comme Arlette.
Deux championnats de France. Hein. Et c'est tout ce qui est sportif qui m'a attiré dans cette fédération. Donc vous avez une partie spectacle, certes, qui est dans le nom. Vous avez pu imaginer tout ce parcours par rapport à votre question. Ça a passé par beaucoup d'étapes. Donc c'est vraiment ce côté spectaculaire qui est mis dans le nom, le pseudonyme, dans le costume, dans la présentation.
C'est quoi le costume?
Ben, en fait, vous choisissez une tenue qui vous permet d'être à l'aise tout en pouvant faire vos prises de sportif.
Mais le vôtre, ouais, il est comment, culotte, votre costume?
C'est une tenue guerrière, comme j'explique dans l'article où je me bats contre tout simplement ces idées reçues que vous avez en général tous, hein, puisque de toute façon, c'est l'idée qui a été développée depuis des années. Mais le catch est avant tout sportif et après.
Quoi? Non, mais
j'ai quand même vu le match The Wrestler avec, le film, pardon, The Wrestler avec Mickey Rourke. Oui. Eh bien, on voyait quand même dans le film que de temps en temps, avant le combat, les deux adversaires se mettent au point sur qui va gagner, tu me laisses gagner, je te fais telle prise et tout ça. Ça existe quand même.
Là, on passe dans la production, donc vous êtes dans un domaine où il n'y a aucun côté amateur. Moi, je suis sportif amateur, catcheuse niveau amateur, donc je n'ai pas ce côté professionnel qui est mis en avant dans le film. Donc forcément, vous avez le côté américain qui est très production.
Oui, mais on aimerait bien savoir comment ça se passe, en fait, comment c'est défini pour savoir qui gagne à la fin ou pas, en fait.
Ah ben ça, c'est aux États-Unis, il faudra poser des questions.
Non, mais en France.
En France, ça se passe pas comme ça. En France, vous avez des combats, vous avez des tirages au sort qui vous fait vous rencontrer donc un adversaire, et quand vous êtes sur le ring, vous avez votre combat, vous positionnez vos prises, vous avez des prises, des contre-prises qui vous permettent d'attirer le regard du public, mais en aucun cas le match est prévu.
Mais vous faites des prises comme ce qu'on voit à la télévision, le coup de la corde à linge, sauter de la troisième corde, ces trucs-là ?
Mais ça reste bien sûr des prises de catch, c'est ça qui est magique dans le catch, c'est que vous avez la possibilité de donner une diversité au niveau des prises qui est énorme. Vous pouvez prendre du taekwondo, du judo, de la lutte. Vous avez la boxe, vous avez...
On a du free fight.
Et si la personne vous met KO, elle vous met KO, c'est ça que je veux dire.
Ah voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Et vous connaissez la prise de l'ours, par exemple ?
C'est la prise du sommeil qui fait que si vous appuyez fort sur le cou, vous empêchez l'adversaire de respirer et forcément l'oxygène ne passant pas au niveau du cerveau.
Titoff, il a eu ça quand il était petit, depuis il s'en est jamais remis, quoi.
Entorse, foulure, douleur au cervical sont monnaie courante. Dites-vous, c'est la répétition des coups qui fatigue le corps. Le catch est un sport violent, hein, quand même.
C'est un sport, comme tout sport, violent, à part quand vous faites du judo, vous avez beaucoup de prises qui sont très, très, très violentes et spectaculaires. Quand vous faites de la lutte, vous avez un marquage au niveau des points qui vous permet de remporter un match par point. C'est-à-dire que si vous avez une belle amplitude dans la prise, vous marquez des points. Ouais. En lutte, en judo, etc. Eh bien, c'est pareil dans le catch. Si vous développez vos prises au maximum de l'amplitude, vous avez aussi un marquage de points. Donc, on revient dans ce côté sportif que je vous citais.
Vous avez en tout cas créé votre propre société, Topaz Productions, qui organise là, pour le coup, des galas de catch. Où là, c'est du spectacle, on est d'accord.
Dans cette production que je mets en place...
Elle veut pas.
Mon but, c'est de prouver qu'on peut faire un côté sportif dans une salle de prestige.
Ça vous sert dans la vie de tous les jours si vous faites agresser, par exemple ? Est-ce que vous enfilez votre costume pour vous défendre ou
Pas du tout.
Comme Wonder Woman, tu sais.
Non.
Dans une cabine téléphonique.
Non,
et votre mari...
Ou l'enclume, vous pouvez faire l'enclume.
Et votre mari fait quoi, madame ?
Je n'ai pas de mari.
Ah, d'accord. Et votre femme ?
Il est con.
Mais c'est possible, vous savez.
Ben oui, c'est possible. Hein. Bien sûr. C'est pas ici que ça nous gênerait, je vais vous dire.
Voilà, je me doute bien.
Isabelle a commencé par la lutte à l'âge de 11 ans. Mon père était ravi, ma mère un peu inquiète, raconte Isabella, à qui on va souhaiter de gagner contre la catcheuse grecque et championne d'Europe lors du prochain
Nana
combat.
Et les lutteurs aussi, il y en a qui font exprès de pas se laver pendant quelques jours avant le combat.
Bien sûr. Je savais pas ça.
Ah ben, et dans le film avec Mickey Rourke, on voyait aussi qu'ils emmenaient des lames de rasoir pour le combat se faire saigner et faire croire que les coups avaient porté plus qu'il ne le fallait. Ça existe vraiment ?
Pas en France en tout cas, parce que c'est pas le but. La vue du sang n'est pas pour moi une spécialité, et en plus j'ai pas trop envie d'avoir un visage balafré.
On vous remercie, divine Isabelle Motreau, car on vous a bien reconnu quand même. Et oui, elle fait des galas de catch en semaine parce que faut bien vivre.
On dit les ouais.
Allez, on vous embrasse. Merci, divine Isabelle, et bonne chance pour le championnat d'Europe.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, question pour un grognon.
Spécial Pierre Bénichoux.
Une question spéciale Pierre Bénichoux, et quand vous aurez la réponse à cette question, vous comprendrez pourquoi. Puisque nous avons aujourd'hui dans la presse le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Benoît Debonne. Un monsieur dont la chatte vient de mourir. Pour quelle raison la chatte de monsieur Debonne est-elle morte ?
Elle a été tuée par un ours.
Il l'avait bouffé ?
Elle s'est suicidée.
Comment ça, il l'avait bouffée ?
Bah, il a peut-être bouffé la chatte, c'est
oh là là, putain.
C'est un peu cru, non ?
Bon, et on y va.
Je n'étais pas préparée.
Même Sophie Favier est choquée. Et pourtant, elle en a vu passer. Elle a déroulé du câble, comme dirait l'autre.
Hein. Oh. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ce que je dis ? Il y a des gens qui mangent des animaux.
De quelle partie de ton cerveau cette plaisanterie vient-elle ?
Ça n'a même pas eu le soutien de Fabrice.
Je ne sais pas.
C'est parfois, il y a des zones de ton cerveau.
En plus, c'est une vieille chatte qui avait 16 ans, hein, quand même.
Est-ce que c'est un autre animal qui l'a tué ?
16 ans, tu peux. Hein,
est-ce qu'elle a été agressée, oui ?
Un autre animal qui l'a tué.
En quelque sorte agressée.
Par un chihuahua ?
Non, pas par un chihuahua.
Le chien de David Douillet ?
Par le chien de David Douillet ! Bonne réponse de Fabrice Éboué.
Ouais.
Ah, ça continue l'histoire. Parce que le feuilleton continue. Hier, on se disait quand même que le Parisien, on avait peut-être fait un peu trop quatre colonnes sur les chiens de David Douillet qui exaspéreraient le maire de Meulan, maire socialiste. Alors on se disait quand même c'est une histoire politique, c'est le maire PS qui en veut évidemment aux sympathisants UMP qu'est David Douillet. On se dit, quand même, il l'embête pour pas grand-chose. C'est Rod Veller qui se balade de temps en temps dans le village. Bon, c'est pas très grave. Alors là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça continue. Les chiens de David Douillet, c'est le titre, s'attaquent au chat d'un voisin. Je vous lis l'article, quand même, parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes, le témoignage, vous allez voir. Alors que le maire de Melun, dans les Yvelines, commune de la vallée de la Seine, où réside David Douillet, alors que le maire s'est ému des fugues à répétition des chiens du champion, l'un des voisins du judoka, qui est sûrement a lu l'article hier, puis qui entre-temps a appelé le Parisien, vous voyez, pour apporter son témoignage. De l'eau au moulin, mais un truc de sa pierre à l'édifice, voilà. Alors, l'un des voisins du judoka vient de révéler, le mot est faible, qu'il avait eu à pâtir du comportement des molosses.
À pâtir.
Jean-Michel.
C'est le type qui est sur...
Le 26 mai dernier, hein. C'est récent quand même comme affaire. Le 26 mai dernier, deux des animaux du champion olympique, qui s'étaient une nouvelle fois échappés de chez eux, se sont jetés sur le chat de Benoît Debonne.
C'est pas vrai.
Ouvrez les guillemets. Les chiens de Douillet se sont retrouvés nez à nez avec mon fils de 22 ans qui revenait de la gare. Il a tout de suite vu la chatte presque morte. Il l'a alors ramassée et les deux molosses l'ont coincée contre le mur, se souvient ce chef d'entreprise. Je me suis réveillé à ce moment et j'ai juste eu le temps de leur ouvrir la porte. La chatte que la famille avait depuis 16 ans est morte quelques minutes plus tard.
Mais 16 ans, c'est une belle vie pour une chatte, quand même. Et puis, qu'est-ce que fait cette chatte dans la rue? Enfin, une chatte de 16 ans, ça dort toute la journée.
C'est vrai.
Il y a des règles à suivre pour une chatte, j'ai envie de dire, quoi.
Oui, gardez vos chattes à la maison, enfin.
Non. Ce genre de plaisanterie sur les animaux.
Pour revenir à l'article, c'est quand même spécial. C'est vrai que c'est assez rare qu'un chien attaque un chat ou une chatte, quoi.
Pas du tout. Non,
on est quand même dans l'exception, on est dans l'extraordinaire.
Ce que je préfère dans l'article, c'est quand le type met à la fin d'une phrase qui n'en finit plus, se souvient ce chef d'entreprise. Ça, c'est extraordinaire.
On va dire qu'il y avait le détail, donc tout le monde se cogne.
Non, je crois que c'est quelqu'un de respectueux. C'est pas que le détail, c'est la totalité de l'article. Comme le dit ce cher Titeuf, je veux dire, un chien qui attaque un chat, je suis pas sûr que ce soit...
Oui, mais c'est le chien de David Douillet, là.
C'est un peu sûr que c'est nécessaire qu'il y ait un article. Enfin, je veux dire, ce que je comprends pas, c'est qu'on revienne sur cette affaire.
Mais c'est une affaire énorme!
Ah oui?
Parce que vous ne vous rendez pas compte, votre amour des bêtes, qui vous honore, vous fait oublier qu'il y a une sensibilisation du public absolument énorme sur cette folie des chiens meurtriers qui bouffent des gosses, qui défigurent des gens.
C'est pas le cas, là. C'est une vieille chatte de 16 ans qui aurait eu une attaque. Elle a raison, Sophie. Un petit arrêt cardiaque.
Alors, pourquoi on va faire des arrêts cardiaques aux vieilles chattes?
Parce qu'elle a vu un gros chien, mais enfin.
C'est un Rockefeller, un chien très riche.
Il y avait
un Rothschild, un Rockefeller. Ils étaient tous les deux.
Gérard, votre avis là-dessus, le psy.
Ah, moi, je soutiens absolument le propriétaire du chat. Ça m'amuse que vous n'imaginiez pas la crainte d'un propriétaire de chat. J'en suis un. À l'idée que des molosses en liberté dans la campagne pourraient s'introduire chez moi. Non, je soutiens absolument le combat de ce propriétaire de chat.
Je pense que vous-même, Laurent, vous serez très vexé si votre chien vous fait des chattes.
Mais qui t'a appris ça? Comment tu sais faire ça?
Non, franchement, je suis confus, Sophie. Avant que vous arriviez, cette émission était d'un haut niveau, hein.
Ouais, ah oui.
C'est donc faux de dire qu'il y a un certain mimétisme entre ce que font les bêtes et ce que font les maîtres.
Je crois que dans le public aujourd'hui, il y a une prof de français qui a amené ses élèves pour montrer un petit peu ce que c'est la radio,
C'est la vie des animaux. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, madame.
Mais j'adore, c'est soutenu par l'éducation nationale, ça c'est toujours extraordinaire. Tu sais, les profs de français, oui, je pensais que c'était intéressant pour les élèves de voir des cons parler de cul. Ouais, donc c'est important d'aller.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
Ah, je vous emmène à Bremerhaven.
Oh
là là, quelle chance.
C'est dans le nord de l'Allemagne.
Bremer.
Tu dois faire tout
prisonnier là-bas, t'es merveilleux.
Bah écoutez, il y a un zoo à Bremerhaven. Oui.
Mais ici aussi, hein, je confirme.
Et on parle beaucoup de deux manchots du zoo de Bremerhaven. Pourquoi parle-t-on beaucoup de ces deux manchots du zoo?
Parce que le médicament tout à l'heure, on ne peut pas lire leurs empreintes digitales, du coup. Donc, les manchots, c'est un peu con.
Les deux manchots, c'est les types qu'il y a le trocaire. Attendez, les manchots.
Parce qu'ils ont été donnés. Mais laissez ceux qui savent.
C'est moderne, ça aussi.
Mais c'est toi qui pars de le trocaire sans arrêt. Alors arrête.
Ils ont été donnés à ce zoo par quelqu'un.
Pas du tout.
Il faut pas, parce qu'en fait, ce ne sont pas des manchots, ce sont des pingouins.
du tout.
Sont un, parce que
ce sont les demi-frères de Jamel Debbouze. Non.
Alors moi j'aurais pas osé.
Oh là là.
Ah, c'est votre patron. Hein. Ouais. Alors attention à ce que vous dites.
Non, non, ça se fait pas.
Pourquoi on en parle tant dans les journaux ?
Parce qu'ils font quelque chose de très particulier.
Ils ont fait quelque
ils
chose.
Ils ont fait quelque chose de très très particulier.
Débarquement.
Ils sont à un moment donné, ils sont échappés à un moment donné du zoo.
Non. Ils sont allés. Ils des bras d'honneur.
Non.
Ils ont quelque chose de particulier.
Ils arrivent à se tripoter. Ouais.
Ah bah, ils ont fait un truc étonnant.
Ils dansent.
Non, ils chantent pas, ils sifflent.
On les a vus à la télé, ils sont passés à la télévision pour quelque chose.
Ah bah, il y a eu des reportages sur eux en tout cas.
Ils ont fait un truc avec.
Quelque chose d'étonnant.
Ce sont des manchots gays.
Alors voilà. Ça, déjà, on a un morceau de l'histoire.
Des manchots gays.
Des manchots gays, un couple de manchots.
Homosexuels. Ils sont embêtés parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer de fist-fucking. Donc
ils se conduisent.
La marche de l'enfer.
Oh non.
Tous ces enfants ici savent ce qu'est le fist-fucking.
Parce qu'ils parlent très bien.
Est-ce qu'ils sont tellement bons en anglais?
Je crois qu'ils ont un oral d'anglais bientôt en plus.
Mais le fist-fucking, il y a deux jours que je sais ce que c'est.
Des enfants, comme tu dis.
Mais le fist-fucking, c'est dégueulasse. Un point, c'est tout.
Non, mais arrêtez, j'ai honte. J'ai une jeune femme là. Enfin, bon, une jeune femme. Ouais, quelqu'un enfin. En tout cas qui.
Comment pas une jeune femme? Une vieille peut-être?
Qu'est-ce que ça peut faire? J'en connais un rayon quand même.
Voilà, mais enfin, quand même. Je sais pas moi.
Vous verriez les godasses qu'elle a, croyez-moi. Vous la respecteriez plus.
Ah ouais?
Moi, je préfère le jean quand même.
Tu les vois d'en haut, les godasses? Tu dis c'est des tennis. Tu les vois de profil. C'est des escarpins. Très jours, je vais vous les montrer.
Même un manchot gay sauterait dessus.
Sans augmentation du prix des consommations, voilà. Là, tu dis, tiens, oh
basket, une basket.
Des baskets. Et puis là, tu fais comme ça, et tu vois la pute qui sommeille dans
très méchant.
Qui sommeille dans toute sportive, quand même.
Non, Sophie, vous laissez pas faire.
Non, c'est pas
aidez-moi
grave.
Plutôt à trouver ce que ce couple, ce que ce couple de manchots gays a bien.
Je sais pas, ils se reproduisent
en public.
Non,
c'est compliqué ça.
Ils étaient séparés l'un de l'autre.
Non,
ils ont eu un chagrin d'amour.
Il y en a un qui appelle l'autre, il fait elle.
Quoi?
Il fait elle, il s'appelle. Elle est pas, il fait tellement chaud, c'est
oh non. Est-ce qu'il y a pas une histoire, ils vont couvrir des œufs en fait?
Excellente réponse de Fabrice Éboué. Ils ont adopté. C'est le premier couple gay.
C'est beau.
Qui vient d'adopter un bébé de leur espèce en le couvant eux-mêmes. Sûr. L'œuf avait été rejeté par ses parents biologiques.
Comme quoi.
Les deux manchots homosexuels ont accueilli l'œuf avec joie et l'ont couvé fièrement. Et depuis
c'est
que...
un des articles les plus bêtes du monde.
Je peux vous dire pourquoi.
Je peux vous dire pourquoi. Ça s'appelle l'anthropomorphisme. Ça veut dire de vouloir prêter aux animaux des tendances, des pulsions et des décisions.
Vous voyez, vous aurez appris deux mots, les enfants, aujourd'hui. Anthropomorphisme et fist-fucking.
Et des décisions que prennent les humains.
Mais
les animaux sont tellement cons, ils savent même pas qu'ils sont pédés. Ils voient un œuf, ils savent même pas que c'est l'œuf d'un autre. Ils ont pas adopté un œuf, ils ont vu un œuf, ils sont un petit dessus.
Pas du tout.
Parce qu'ils sont tellement cons.
Il y a plein de recherches et qui sont en train de prouver que justement les animaux ont une intelligence très
un manchot sur la couverture de tes tubes.
Mais à quoi on le voit qu'ils sont gays quand c'est leur façon de marcher.
Non, la façon de s'enfiler.
L'œuf avait Non, Gérard, on attend des.
Je suis très gêné.
Vous reveniez le débat.
Pour la famille de ces manchots, là.
C'est une belle histoire, Gérard. On est
pas... T'es sûr qu'il s'assoit sur l'œuf pour le couver, vraiment?
Vous allez m'expliquer ce qui a pu se passer dans ce zoo, parce que c'est quand même assez intéressant.
Mais on n'en parle pas tous les 6 mois des manchots pédés qui ont un œuf.
Ouais, il paraît
qu'il paraît que
dans le même zoo, il y a des phoques hétéros, c'est incroyable.
Les deux manchots homo ont accueilli avec joie cet œuf et l'ont couvé fièrement. Et depuis que l'œuf a éclos, parce que ça y est, l'œuf a éclos, ça, ça devient intéressant.
Oui, le petit, il sortait avec une petite toupette.
L'œuf a éclos et les deux manchots gays se comportent comme de vrais parents vis-à-vis du petit manchoto ou manchota ou manchotin, comme on dit, un petit
bébé manchot,
petit manchot, le bébé manchot et le bébé manchot, le bébé manchot, le bébé manchot.
Avec vos bras.
Eurovision 1987.
Beau.
Et ils sont comme de vrais parents, ouais, les deux manchots gays vis-à-vis du petit manchot là qui vient de naître. Et la direction du zoo précise que l'homosexualité n'a rien d'inhabituel chez les animaux.
Non.
Alors écoutez, voilà, c'est mignon, c'est insolite, c'était une belle petite histoire que ouais, qu'il nous fallait raconter,
mais
Gérard.
Bien sûr, et qui n'a été gâchée par aucun commentaire grave-le, c'est très bien.
Pour une fois.
Non, mais apportez votre vision psychologique, analytique.
L'homosexualité n'est donc pas une tare, ni chez les animaux, ni chez les êtres humains.
Voilà,
voilà ce que nous pourrions dire en conclusion.
On peut couver l'œuf d'un autre.
Mais bien entendu.
Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la façon de nous faire passer que les homos peuvent adopter des enfants, en fait.
Bah, c'est ce qu'il essaye de faire.
Ah non, hein, c'est pas moi, c'est le Parisien. Hein.
Oui, mais en reprenant cette information.
Oui, c'est un petit peu ce que vous avez envie de nous
faire. Je m'en fous des manchots gays, moi.
Enfin, écoutez, il y a des milliers de nouvelles dans le monde chaque jour. Vous êtes allé chercher l'histoire de deux manchots gays au fin fond de l'Allemagne.
Fais ton analyse. Fais ton analyse.
Assumez.
Tu lui as demandé, Laurent. Non, si tu as annoncé. Demandé.
Assumez ça.
Vous allez adopter avec Michalak, dis-nous tout de suite.
Qui a prononcé cette phrase? Écoutez bien ce son.
Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not?
Yes, I am.
Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No! No! Don't
Vous dites Caroline Diamant,
Christian Bale.
C'est Christian Bale, Batman. Enfin là, c'est pas justement sur le tournage d'un Batman, c'est sur le tournage de Terminator qu'il engueule un technicien qui s'est quand même fait plaisir en enregistrant le son, évidemment. Le nombre de fuck qu'il peut y avoir par phrase, tellement il engueule ce technicien sur le tournage.
Ouais. Et il était plutôt content de lui là.
C'est en tout cas une excellente réponse de Caroline Diamant.
Il est génial.
Dans Terminator Renaissance, qui sort aujourd'hui, 25 ans après le premier épisode de Terminator, à l'époque c'était avec Arnold Schwarzenegger.
Excusez-moi, est-ce que cet enculé technicien peut monter le casque un peu, je n'entends rien depuis tout à l'heure. Tu fais chier, connard.
Voilà, voilà exactement la traduction de ce que vient de faire, enfin il l'a pas fait à l'instant, mais de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Christian Bale.
C'est bien
Bale.
Qu'il est resté simple, hein,
ah, oui,
proche des techniciens.
Et c'est comme ça, hein, qu'est-ce qu'il est parfois sur les tournages américains, ça fait le bonheur des internautes. Hein. On trouve ça sur le web, l'engueulade du comédien vis-à-vis d'un technicien qui a été viré sur le champ tellement il s'est fait engueuler par l'acteur principal de Terminator, qui ne joue pas Terminator d'ailleurs dans le film. Hein. Moi je connais pas bien l'histoire de Terminator.
Il joue un gentil dedans.
Il fait un gentil. Ouais.
Ah, il joue un gentil.
Non, je sais pas, mais vu comment il l'insulte, ça serait étonnant.
Il joue John Connor.
C'est le fils de Sarah Connor alors.
C'est le petit jeune.
Il joue un humain qui résiste aux machines en fait.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Pierre, vous pouvez me résumer Terminator, vous qui suivez ça de très près?
En deux mots.
Ouais. Bah, Terminator, c'est un garçon qui, au départ, n'a pas eu de chance. Ses parents ne l'ont pas poussé. Et alors, il a eu une sorte de révolte qui est montée en lui, quoi. Et alors, quand on lui dit t'as pas bouffé, il dit si, je vais tout terminer. Alors, on l'appelait Terminator. Il mangeait plein à table. Puis après ça, il a été dans une fucking story. Une fucking story, une histoire de cul. Fucking story. Il était là, puis il y a quelqu'un qui l'a emmerdé. Et alors, il l'a tué. Il a dit, mais celui-là, tu vas le finir à coup de pied. Il a dit, yes, on l'appelait Terminator à cause de ça. Et maintenant, comme il a engueulé trop fort un technicien, les syndicats communistes, tous, hein, beaucoup de noirs dedans. T'insultes. Eh ben, c'est Terminator pour toi.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, question, si tu n'y réponds pas, ben, t'es con.
Evita va sûrement mourir et tout le Danemark en est ému.
Oui. Ah oui,
oh, quelle tristesse,
chienne.
La petite chienne
c'est
de la
chien.
Reine. Elle a mordu les soldats.
Bravo, bonne réponse de Philippe Alfonsi.
Oui, je m'intéresse beaucoup aux chiens, vous savez pas?
Evita, c'est un petit équel.
Ouais, ouais. Petit équel qui a mordu les soldats.
Et ça l'a empoisonné?
Non.
Ils sont obligés de la battre. Non.
Mais attends, c'est à mourir de rire
je
cette histoire.
Je comprends pas.
T'as tous les députés de l'opposition, les socialistes, tout ça, qui gueulent et qui exigent la mise à mort de la chienne.
C'est
parce qu'il faut que quand on fait ça pour un chien d'un citoyen normal, il n'y a pas de raison que le chien de la reine échappe à ça. Donc,
Allez, coupez les têtes.
Non.
Ouais, mais c'est en plus, c'est pas tout à fait le chien de la reine. C'est le chien du prince consort, voilà, Henrik, l'époux de la reine Margrethe II de Danemark. Et effectivement, il a mordu ce chien, ce petit teckel.
Ouais, c'est moche, le teckel.
Ah oui, c'est vrai que c'est moche, un teckel.
C'est méchant, c'est
méchant. C'est quand même pas mal. Ça évite de laisser passer l'air sous les portes, vous savez.
C'est ça. Attends, mais c'est quand même leur couper les pattes. Mais tu sais que les Chinois les servent en bûche de Noël, en fait.
Et juste à mettre une petite bougie au milieu et... Attends, mais le teckel, c'est ça, c'est le truc
avec
long.
Un nain dessus.
Le teckel, cherchez pas, vous n'en avez jamais vu, c'est trop haut pour vous.
Je crois que j'ai vu les pattes d'un teckel une fois.
Moi, je voulais un teckel quand j'étais gamin.
Non.
Ah, j'adorais ces chiens.
À poil dur.
Bah,
et alors
ah oui, c'est vrai qu'il y en a à poil long aussi.
Oui, il y en a à poil dur.
C'est la forme qui te plaisait? Qu'est-ce que c'était?
C'est la ressemblance avec une saucisse, en fait.
Oh, une bite avec des pattes.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé,
elle
Laurent?
Elle bouge toute seule.
Pourquoi tu as changé d'avis?
On peut enlever les oreilles.
Mais j'en ai là.
Manger croquet. Les oreilles, ça te dérangeait pas?
On peut garder que la truffe.
Mais j'en ai... J'en ai eu un, mais j'ai souvent raconté ça, je crois.
Oh non, ça va nous faire pleurer.
Ah, vous voulez que je vous raconte?
Oui, le teckel du caillou.
J'ai déjà raconté ici, vous voyez. François Reducci dit que je l'ai déjà raconté.
Vas-y, on se rappelle plus.
On était persuadé que c'était un teckel.
C'était un berger allemand, en fait.
C'était
trop mignon. Mes parents m'avaient promis le jour où on quitterait l'immeuble, la HLM, pour aller habiter dans une petite maison, ce qui est arrivé.
On n'a pas une petite musique dans ces cas.
Petite musique, s'il vous plaît.
C'est comme dans les dessins
violents. Un peu de piano, un peu de violon.
La petite maison,
que j'aurais un chien
dans la prairie.
Ma sœur, ma grande sœur.
Non, Laurent, excuse-moi. Tu prends pas un moment de la HLM?
Allez,
ma grande. Une fois qu'on arrive à avoir un petit jardin, ma grande sœur dit « Oh, j'ai repéré pas loin une maison où il y a un élevage de teckels. C'est formidable, les teckels. » Et moi, je dis « Ah oui, j'aime ça, les teckels. »
Bon.
On y va. Et il y avait toute une portée qui était là. Ils étaient tout mignons, les teckels choux.
Tu vas nous faire chier, là.
C'est comment? Un teckel petit, j'en ai jamais vu.
Et ils étaient tous là. Et vous savez comment je suis. Il n'y en avait qu'un de noir.
C'est un peu comme ici, d'accord.
Comme ici, c'est pareil.
Évidemment, c'est j'ai dit on va
prendre le vilain petit teckel.
On va prendre le petit noir.
Ben, donc si jamais tu vas dans un bar ou un restaurant ou une boîte de nuit, s'il n'y a qu'un seul noir dans la boîte, il y a du souci à faire.
Il va être adopté aussi.
Ah, t'as bien fait de la re-raconter.
Attendez.
Et il l'a appelé Arnold.
Non. J'ose même pas vous dire comment il s'appelait.
Ah, si, chocolat. Si, ça si.
Noiro. C'était une année en N. Il fallait trouver un nom qui commence par N. Et comme il était. Bon, voilà. Et on a hésité entre Napoléon et Noireau. Bon.
Et Nègre. Il y avait Nègre.
Il y avait Nègre.
Noireau, c'est mignon.
C'est mignon.
Alors, jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'on n'avait pas repéré. Parce que c'était des pures races. Voilà pourquoi il fallait absolument appeler le chien avec la lettre de l'année. Puisque c'était les pures races. Sauf qu'au fond de la cour, on n'avait pas vu un vieux pincher tout noir.
Un quoi?
Un pincher.
C'est quoi un pincher?
C'est un pincher.
Un pincher, c'est une race de chien.
C'est un petit chien avec un museau pointu.
C'est-à-dire que ça, c'est pas plus grand qu'un teckel, mais c'est plus haut sur pattes.
Voilà.
Comment un chien peut être plus haut, pas plus haut qu'un teckel, mais plus haut sur pattes? Je veux savoir comment c'est possible. Il a pas de corps, quoi, en fait.
Mais si,
il a que des pattes, en fait. Il a des pattes et la colonne vertébrale.
Mais non, il est pas en longueur, il est en hauteur.
Il est plus fin.
Tu prends un teckel et tu le mets verticalement.
D'accord, pardon, excuse-moi.
Vieux salopard de pincher, il avait dû baiser la teckel. Et c'est pour ça qu'il y avait un noireau.
Et alors, ton teckel n'était pas un teckel.
Mon teckel n'était pas un teckel.
Et comment c'était tu l'as su?
Ah bah très vite.
Parce qu'il a grandi.
Bah, grandisse.
Un teckel qui fait 1 mètre de haut, tu vois.
Petit, on fait pas la différence. Oh. C'est après quand.
Et les... donc tu l'as.
Alors vous l'avez jeté alors.
Tu l'as euthanasié.
Oh, je l'ai revendu au Danemark.
C'est un pincher quoi.
Non.
Et tu l'as gardé.
Ah bah oui, on l'a gardé.
T'étais attaché.
Oh, c'était attaché.
Mais
ma
tu l'avais payé.
Quoi? On l'avait payé.
Le prix du teckel.
Ah, c'est toujours le prix. Elle. Alors.
Il y a que ça qui compte.
Elle a raison. Si on revend un teckel et que c'est du faux, c'est ce que tu t'es fait avoir.
C'est comme un faux Vuitton.
Oui, mais attends, si ça se trouve un pincher, c'est plus cher.
Non là,
comme son nom l'indique.
Celui-là, c'est pincher, c'est pincher.
Prends.
J'en ai connu des pincher, crois-moi.
J'en étais sûr.
on va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Frank Bauer, que nous aurons au téléphone dans un instant, a été le premier à prononcer une phrase très célèbre. Quelle phrase célèbre ?
Comment il s'appelle ?
Ich bin ein Berliner.
Plutôt pas, non ?
À nous les petites anglaises ?
Non.
Attendez, plutôt pas, c'est un rapport avec l'Allemagne ?
Indirectement, oui.
Avec Cohn-Bendit ?
Et même très directement,
avec
d'ailleurs.
Avec le communisme ?
Avec le communisme, non. On l'aura au téléphone dans un instant, Frank Bauer.
Frank Bauer, il jouait pas, c'était pas un joueur de foot ?
Non, c'était Beckenbauer.
Il y avait autre chose. Ça n'a rien à voir avec 24 heures chrono.
Non, rien
c'est
à voir.
C'est pas lui qui a dit, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
Non, il n'était pas sur la Lune, Frank Bauer, mais il était dans un endroit qui lui permettait de prononcer cette phrase, une phrase très célèbre, et donc on peut dire qu'il a été le premier.
Veni, vidi, vici.
Non. C'est...
Il n'est pas mis à ce point, mon gars.
C'est lié au débarquement.
C'est lié au débarquement, oui.
Mais est-ce qu'on leur a mis à ces boches
avant le débarquement, même.
Est-ce que c'est une phrase qu'il a reprise, une phrase célèbre qu'il a reprise à son compte ou qu'il a vraiment inventée?
Mais puisque je vous dis que c'est le premier à l'avoir prononcé, il ne veut pas l'avoir reprise à son compte.
Ah oui, alors c'est la fameuse phrase pour le débarquement.
Français, française.
Non.
L'appel du 18 juin. C'est lui qui a lu ça à la radio.
Donc
c'était l'appel du général de Gaulle.
Je vous ai compris.
Une bataille est perdue, mais la guerre.
Et alors effectivement, c'est à propos de l'appel du 18 juin qu'on reparle de ce monsieur. Mais quelle est la phrase célèbre qu'il a prononcée lui pour la première fois et qui n'était pas forcément une phrase prononcée le 18 juin?
Les Français parlent au français.
La
français.
Ici Londres.
Les Français parlent au français. Bonne réponse de Gueluc et Gérard Muller.
Ah ouais. Et là, moi, je suis exclu tout de suite, quoi.
Monsieur Bauer, bonjour.
Bonjour. Bah, je salue Gérard Miller, que j'écoute souvent sur les antennes, et je vois que sa perspicacité n'est pas en défaut. C'est bien moi qui prononçais tous les soirs la phrase historique. Ici Londres, les Français parlent au français.
Mais vous aviez des chroniqueurs, c'était une émission comique.
C'est une émission comique, oui.
Vous avez 90 ans aujourd'hui et vous étiez donc le speaker de Radio Londres. Incroyable. Vous pouvez nous la prononcer rien que pour nous une fois, cette phrase?
Ici Londres, les Français parlent au français.
Ah, c'est quand même ça me fait des frissons.
C'est génial.
Ah, oui, j'étais pas né évidemment à cette époque-là.
Bon, comment ça?
Mais non,
c'était émouvant.
Mais je trouve ça incroyablement émouvant.
Bah oui, tu parles.
Ah bon, ça te fait rien, Gueluc, évidemment, espèce de neutre à la con là.
Et alors, vous avez
ah, c'est vrai ça. Il était
neutre. On les a arrêtés pendant 18 jours tout de même. On s'est battus comme des lions.
Vous étiez présent quand le général de Gaulle a lancé son appel?
J'étais pas présent parce que quand le général de Gaulle est arrivé, il n'y avait pas encore de Français libres, puisqu'ils déclaraient la France libre. Donc, je ne l'ai rallié que quelques jours plus tard. Je l'ai rencontré le 1er juillet.
Vous avez continué la radio ou pas?
Ben, j'ai continué pendant toute la guerre. J'étais de la
longueur. Mais après, je ne sais pas, est-ce que vous êtes passé sur Énergie,
après,
sur Fun?
Non, parce qu'après, je suis devenu secrétaire général de la Comédie Française.
Tu fais le morning de Skyrock à la rentrée. Et est-ce que vous avez connu, et je suppose que oui, quelqu'un qui était aussi à Radio Londres, qui est quand même un type épatant qu'on peut saluer, c'était Pierre Dac, qui était une des grandes voix de la radio.
Mais il est arrivé qu'en 1944, Pierre Dac, parce qu'il avait été en prison très longuement par Vichy, et il est arrivé tout à fait assez tard, je vous dis en 1944, c'est-à-dire à la fin de la guerre.
On est quand même très émus de vous avoir au téléphone, c'est vraiment chouette. On a le son d'origine, écoutez.
Ici Londres.
C'est vous ça, monsieur Bauer?
Oui, c'est moi.
C'est génial quand même.
C'est incroyable.
On peut le repasser une fois encore.
Ici Londres.
Qu'à l'époque, Daniel était déjà dans le public.
Bah quand même, c'est formidable. Vous avez toujours la pêche et la santé, monsieur Bauer.
Vous pouvez parler de ma santé?
Oui,
elle est un petit peu sur la sellette, mais enfin, ça va bien.
Ça s'entend pas.
Vous courez moins vite, évidemment, mais enfin, à 90 ans, ça va quoi, quand même.
Ça va encore.
On vous remercie, on vous applaudit, et c'était une joie de vous avoir au téléphone.
Merci.